Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 mai 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 11 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis des résistances, bonsoir. Alors, à force d'entendre allonger comme ça toutes les chaque semaine le générique de présentation, ça va finir par faire la totalité de l'émission, surtout qu'elle nous le joue, Victoria. Vous avez remarqué, c'est façon vieille Odéon ou jeune Odéon.
Vieille Odéon, j'aime bien.
Hein, vieille Odéon.
J'aime pas les banquettes.
Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Qu'on soit sur internet internet tv-radio.com, ça veut dire que le monde entier nous entend en ce moment. Or, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Par exemple, les heures qu'on donne, ça n'a plus aucun sens. Quand on dit vous pourrez entendre de 5h à 7h ou des choses comme ça, ça n'a plus de sens, puisqu'il est évident que les 172 millions de Japonais qui nous écoutent, pour eux, c'est pas les mêmes heures. Et l'aborigène d'Australie, au fond de nulle part, qui nous écoute, parce qu'ils ont Internet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et bien c'est pas pareil non plus. Comment on va faire maintenant?
Ils se débrouillent.
On va parler de l'heure sidérale. Il faudra faire l'heure sidérale. En tout cas, alors, la prochaine fois, je vais répéter, puis on fera la présentation. On dira bonsoir dans toutes les langues du monde, comme fait le pape.
Ça, vous n'allez pas être déçus pour l'accent, pour moi.
Voilà, ce soir, je vous donne le programme, pour que vous puissiez... passer sur une autre radio si ça ne vous intéresse pas.
Mais non.
D'autant qu'il y en a, hein, sur le satellite et Internet, on a des milliers.
Il y a de quoi tourner, complètement fou.
Non, de se cultiver. Alors donc, je vais recevoir Georges Clément et Alex Chabanis. On va parler de l'immigration, mais brièvement de manifestations relatives à l'immigration. Ensuite, avec André Figueras, on parlera d'une part de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou et d'autre part d'un livre qu'il vient de publier, qui est doublement intitulé, alors on en tirera les conclusions qu'on veut, « Le fou de l'Élysée ou la malédiction du général ». Ensuite, je recevrai Michel Blanzac, qui revient de Bulgarie et qui nous racontera un peu rapidement ce qu'il a vu là-bas, mais il le racontera d'une façon plus détaillée dans le Libre Journal, excellent décadère au demeurant,
excellent.
Vendu dans le monde entier, Radio Courtoisie est entendu dans le monde entier.
Et qui doit sortir incessamment sous peu.
On a un abonné en Australie, on a un autre abonné en Polynésie. On a même un abonné à un truc absolument incroyable, je crois que c'est Sarcelles ou quelque chose comme ça. Ensuite, je recevrai Jean-Michel Pedrazzani, qui a écrit un livre sur les prénoms. L'avantage du livre sur les prénoms, c'est que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez offrir ça quand il y a une naissance, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et celui-là est particulièrement bien fait, c'est la raison pour laquelle j'ai invité son auteur. Puis Cécilia vous parlera de la tomate, Intéressant sujet, la tomate.
Et en deuxième... les faire pousser sur votre balcon.
Oui, absolument, une salade sur votre balcon. Et en deuxième partie, le colonel Moinet nous parlera de l'armée française, vaste sujet. Et Philippe Ploncard-Assac nous parlera de la nation, le nationalisme français. Et tous les deux à propos de livres qu'ils viennent de publier. Tous ces auteurs, vous les retrouverez dimanche. Alors je signale d'ailleurs que je signale à nos auditeurs australiens, japonais, moldovalaques, sibériens, camerounais, togolais, qu'est-ce qu'il y a encore, péruviens, enfin le monde entier, que dimanche nous nous retrouvons à la Mutualité. Alors pour les prix des billets, c'est vos agences de voyage habituelles. Quoi. Pas... On n'a pas prévu d'autocar, hein, je vous le dis tout de suite. Dimanche à la Mutualité à partir de 10h. Figueras sera là. Blanzin, vous viendrez, vous, pour nous vendre le livre que vous n'avez pas encore écrit.
Je ne serai pas là.
Je ne viendrai pas. C'est Victoria viendra, elle me l'a promis.
Mais je viens toujours. Toujours.
Et ben voilà. Alors, Monsieur Clément, je pense que je ne vais pas faire de révélations formidables aux auditeurs en leur apprenant que vous avez prévu une manifestation.
Voilà.
Le 13 mai, c'est-à-dire la veille du...
Dans trois jours,
la veille de la grande fête de Radio, la fête du livre de Radio.
Exactement.
C'est-à-dire que vous serez.
Ah oui, moi j'y serai, mais alors à titre d'auteur.
À titre d'auteur.
Oui.
Parce que vous écrivez en plus.
Je suis poète.
Mais ça c'est toi, bien entendu.
Voilà.
Mais alors donc là on va pas parler de poésie directement.
Non, pas vraiment.
Manifestation. Je crois que les auditeurs savent, mais enfin s'il y a des auditeurs qui l'ignorent encore. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, enfin rapidement, quel est l'objectif de cette manifestation et quel est son sens et son slogan principal, son message, comme on dit maintenant.
Sa revendication principale, puisque on ne manifestera pas dimanche pour lancer un message, mais pour dire qu'un certain nombre de choses doivent cesser. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous manifestons. Alors, la manifestation a comme thème principal un thème qui est ancien, qui a été à l'époque des manifestations de 98 réclamé déjà, c'est-à-dire qu'on donne la parole au peuple français pour qu'il dise enfin sur l'immigration ce qu'ils en pensent et jusqu'où on doit aller ou ne pas aller. C'est-à-dire, au fond, on réclame un référendum sur l'immigration.
Ah ben là, au moins, vous êtes d'accord avec Chabelle, il n'y a pas de problème.
Oui, mais il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Hein. Ça, c'est le principe. D'autant plus que c'est un thème ancien à la Voix des Français, que nous avions déjà remis à l'Élysée, avec le succès que vous imaginez, une pétition en 1998 sur le thème de la réclamation d'un référendum sur l'immigration. Alors, simplement, on rajoute... Parce que la politique française devient comme un nœud gordien qu'on va finir par ne plus pouvoir que trancher et non plus dénouer. On rajoute que la politique ou l'absence de politique de la famille et que d'autre part un certain nombre de poids qui pèsent sur le pays en matière de liberté et qui sont de plus en plus limitées. On attend un certain nombre de lois ce mois-ci ou le mois prochain, enfin à la fin de la session de printemps, sur la réglementation de l'embauche des entreprises, toujours en liaison avec l'antiracisme officiel, puisqu'il s'agira de retourner la charge de la preuve et de réclamer des chefs d'entreprise la preuve qu'ils n'ont pas recruté un tel ou un tel qui vient d'un pays exotique parce qu'il n'était pas de ces pays-là et qu'il était incompétent. Or, apporter la preuve que quelqu'un est incompétent et qu'on l'a pas recruté est une affaire assez cocasse. Or, tout ça va être voté et nous nous battons contre ça.
Non, parce que ça peut tellement être retourné, ça peut tellement conduire à des choses.
Mais
écoutez, je vais prendre un exemple.
Oui.
Juste en face de chez moi, il y a un centre communautaire israélite qui vient d'ouvrir. Il cherche du personnel. Bon, moi, je me présente là-bas pour être embauché. Je vais évidemment pas être embauché pour la simple raison qu'il faut être israélite pour travailler dans un centre communautaire israélite. C'est la moindre des choses. Bon, un gros malin, il va dire, bon, paf, moi, je demande l'application de la loi. Donc, très vite, on va s'apercevoir que cette loi ne peut pas fonctionner. Matériellement, c'est impossible. C'est la même histoire que la fameuse obligation de faire des listes mixtes à 50-50, 50% de femmes, 50% d'hommes. Le résultat, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de candidates parce que les femmes sont pas assez idiotes pour perdre leur temps à faire de la politique
aérienne. Apporter un bémol à ça, dans la mesure où un certain nombre de chefs d'entreprise sont déjà devant les tribunaux, ont déjà été condamnés le mois dernier à Grenoble, par exemple, et ailleurs, pour racisme à l'embauche, que cela n'a même pas nécessité une loi, qu'il a suffi du témoignage téléphonique d'un agent de l'ANPE pour dire « Monsieur Intel a dit telle et telle chose, ce monsieur s'est trouvé devant les tribunaux et a été condamné. »
Oui, mais ça marche pour l'instant, parce que si vous voulez, ce sont les prémices d'une affaire. Mais quand ça va vraiment prendre une dimension, il va y avoir une mobilisation. Je dirais qu'à mon avis, ce sont des lois qui vont dans le bon sens, parce qu'elles vont... Oui. Finir par provoquer une prise de conscience dans notre pays.
Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette manifestation, nous sentons... Alors, pour la première fois, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avions demandé à tous les partis politiques ou toutes les organisations qui avaient, au fond, les mêmes opinions que nous sur ces sujets, et qui même affichaient des fois des politiques similaires, ou des politiques pour tout court, c'est-à-dire, puisque ayant la possibilité de légiférer, ils pouvaient... appliquer faire des lois. Eh bien, nous avions demandé à tous ces partis politiques, je les nommerai pas, de nous soutenir et d'appeler. Ils ont toujours refusé. Cette année, c'est différent. Cette année, je dois dire les noms de ceux qui appellent. Le MNR appelle sérieusement à venir à la manifestation, et le RPF aussi. Alors, pas les autres, chacun fait comme il veut, mais il est évident que c'est la première fois.
Je crois que Mme Stirbou a dit dans une émission hier ou avant-hier que n'était pas dernière si vous l'invitiez.
Ah bon, elle est invitée, on a écrit à tout le monde.
Non, mais je pense qu'elle veut une lettre d'invitation.
Ah, peut-être. Non, mais il y a eu une lettre d'envoyer, probablement.
Ah, vous l'avez envoyée, une invitation. Non, moi, j'en ai pas reçu.
Ah, pas vous.
Je ne suis pas assez important, moi. Non, parce que je crois...
Monsieur de Becquet, comment vous y allez?
Non, c'est parce que, je veux dire, pense que, je disais ça tout à l'heure, Madame Chabourniau de Sarcelles, elle n'a pas reçu d'invitation non plus, elle va venir quand même.
Oui.
Monsieur Le Bouchardin... de Sceaux, qui a pas été, vous l'avez pas invité.
Non, on l'a pas invité.
Il va venir quand même.
Oui, il va venir quand même. Oui.
Donc il y a des gens qui viennent sans invitation.
Absolument.
Mais Madame Sirbois, elle veut une invitation. Vous pourriez quand même lui en envoyer une.
Oui, c'est assez vrai, mais
un minimum quand même.
Voilà. Alors, je vais me défausser honteusement. Je ne suis pas chargé d'envoyer les invitations, donc je transférerai à tous les droits.
Transmettez vite, parce que avec le courrier, votre invitation, elle va arriver pour Pâques.
Alors il y a cette année donc
2001,
une conjonction. D'autre part, en province, j'ai fait une réunion à Lyon. Vendredi soir, nous avons de plus en plus de monde qui vient dans les réunions. Il y a une exaspération. Je pèse mes mots quand je le dis. Je crois qu'effectivement, on atteint la limite du tolérable dans l'esprit de beaucoup de Français. Ça, c'est clair. Que cette limite du tolérable, j'espère qu'elle va se manifester dimanche. Et nous espérons qu'on passera la barre des 10 000 personnes. Et on sera déjà très contents.
Elle va se manifester comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réunir du monde et vous allez...
Comment ça va se passer? Le déroulement de la manifestation est simple. On se rassemble place Vauban à 14h30. Donc, c'est derrière les Invalides. Il y a un certain nombre... de messages qui sont transmis. Il y en a 6. Il y en a pas. Je peux dire d'ailleurs qui va parler. Bien sûr, Paul Lambert, le président de l'association, va ouvrir les allocutions. Elles seront très courtes. On les a minutées aux alentours de 4 minutes chacune. Il y a ensuite William Goldnadel, qui est droit à la sécurité, qui vient parler sur le droit ou la devoir de sévir. Il y a ensuite votre serviteur, qui va avoir quelque chose à dire sur les réseaux SOS, Poliation et Violence. Il y a ensuite... Monsieur Le Gallou qui va prendre la parole, ensuite Pierre Bernard va prendre la parole, ensuite Monsieur Marchiani va prendre la parole et Henri de Lesquin termine. Donc voilà, ça c'est là. Et après, nous ébranlons, comme on dit, sans jeu de mots, vers l'avenue Montaigne et vers les radios, c'est-à-dire RTL, Europe 1, car le but de la manœuvre, c'est aussi de dire aux médias qu'il va falloir enfin qu'ils disent ce qui se passe dans la rue et qu'ils disent... qu'un certain nombre de milliers de Français en ont marre et ont le courage de le dire dans la rue. Parce que je crois que c'est ça le problème.
Alors ça, c'est une chose, mais sur le plan opérationnel, je dirais. Oui. Alors, une fois que cette manifestation sera déroulée, est-ce que, par exemple, là, vous allez vous inscrire dans un projet comme le projet de référendum sur l'immigration, d'états généraux sur l'immigration qui conduisent à un référendum? Parce que le problème de ces manifestations, c'est toujours un peu le même. C'est-à-dire que c'est une catharsis. Les gens viennent, ils crient un bon coup, puis ils rentrent chez eux en disant « ça y est, j'ai fait mon boulot de militant ».
Alors, je nuancerai quand même, Serge Becquet, parce que d'abord, il y a des organisations permanentes qui sont en place. C'est-à-dire que nous travaillons tous les jours sur ces sujets-là. Et en particulier sur les sujets concernant la délinquance liées à ces problèmes d'immigration. D'autres associations qui sont dans cette... ils participent aussi de ce genre d'action. Donc ça, on ne va pas changer notre activité. Ce que nous espérons, c'est qu'elle va s'accélérer. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont venir prendre leur place dans les comités. On manque d'avocats, on manque de tas de gens. Donc ça, c'est un élément. Et nous prévoyons, mais j'aime pas trop dire les choses à l'avance, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Il est évident qu'il va peut-être être enfin nécessaire de mettre en place un comité qu'on peut appeler de sauvegarde, de coordination, de ce qu'on veut.
Tu veux dire mais, salut public
J'ai pas dit ça, hein, je l'ai
non,
pas dit.
Non, mais moi je le dis parce que
vous l'avez
on commence par les états généraux. On va.
Étant donné que
on va faire une constituante, il faut un comité de salut public. Ouais. Et un jour,
avant le comité, il faut une législative. Alors si vous y allez, il faut aller jusqu'à la convention. Mais ce que je veux dire,
non, c'est pas convention, c'est la pyramide. La Pyrénée, vous.
Nous, on n'est pas les rues de la félicité, vous ne m'embrouillez pas. En clair, ce que je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait un organisme qui se mette en place, qui coordonne l'action de toutes ces... et qui continue à essayer d'obtenir de la... Mais d'accord. Je crois qu'il faut agir. Moi, j'ai dit ça depuis un an.
Il y a des interventions d'auditeurs.
Oui, parce que vous avez dit plusieurs fois dimanche.
Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, voilà, alors, roulez-vous partout.
Alors, je redis, pardon.
Samedi 13 mai.
Samedi. Alors, je répète. Parce
que moi, je reste sur ma journée du livre.
Voilà. Alors, je répète, vous avez raison. Samedi 13 mai. Oui. 13 mai, c'est samedi. Place Vauban, 14h30, pour manifester.
Chabanis, vous y serez où?
Ah oui, j'y serai puisque j'ai participé à toutes les manifestations de la Voix des Français et j'estime que c'est une très bonne initiative qu'a pris Monsieur Lambert en créant cette association en 97. Je tiens à faire un petit rappel historique. Dès 80, je proposais dans un mouvement la création d'un référendum. Dès 80, je lançais l'initiative du référendum d'initiative populaire et je précisais dans un tract que je vous ai remis qu'il fallait contacter ses députés et sénateurs dès 80. J'ai repris l'initiative en 90 avec le choix du peuple français et dans une constitution de droit national que j'ai écrite en 1970, je précisais que l'article 55 de la constitution allait mettre en danger l'ensemble des droits français. Tous les juristes, n'ont pas pris garde à ce que l'article 57 allait limiter la souveraineté nationale, et nous y sommes. Nous sommes non seulement à cette limitation que nous dénoncions en 55, en 79 de l'article 55, qui allait nous emmener où nous sommes, mais ce qui a été terrible, c'est le silence pendant 20 ans sur l'article 55, alors que dès 1979, je précisais pour une constitution de droit national ce qu'il fallait réformer dans la constitution pour que le droit des Français soit respecté. Donc, je dis une chose. Une manifestation, c'est une chose très intéressante. Nous allons y aller et nous avons appelé à y aller. Mais je dis que une manifestation, moi je suis rentré dans une société de rupture et je dis que maintenant, pourquoi nous sommes, je suis d'accord avec M. Duguier là-dessus, mais il y a 10 ans que je professe la société de rupture, parce que les socialistes ont programmé en 81 une société de rupture. Qu'avons-nous fait depuis 20 ans, si ce n'est d'accompagner le socialisme? Alors je dis, pourquoi je programme sociologiquement une société de rupture? Parce qu'il y a 200 ans, nos ancêtres ont fait des états généraux, ont transféré la souveraineté du roi au peuple. Eh bien, aujourd'hui, le vote des étrangers nous précise ceci. On vous transfère votre souveraineté à l'étranger. Et je n'ai pas vu, sur le plan juridique, les constitutionnalistes se lever et dire... Il faut faire quelque chose. Je dis que le transfert, le vote des étrangers, c'est la fin de la nationalité française. Alors qu'a-t-il à répondre? Pouvons-nous répondre en termes associatifs? Pouvons-nous répondre en termes de parti? Pouvons-nous répondre en termes de peuple? Parce que mon peuple s'appelle le peuple français. Mon pays s'appelle la France. La France, ce n'est pas ce pays, c'est mon pays. Et dans mon pays, il y a un peuple qui s'appelle le peuple français. Eh bien, ce peuple, puisqu'on lui a donné la citoyenneté française, eh bien, c'est simple. États généraux, levez-vous. Ne vous levez pas par rapport à un système qui va vous emmener à votre perte. Levez-vous pour les États généraux en tant que citoyen français.
Alors, Alexandre Chabanis, d'accord. Simplement, je voudrais faire une remarque là. C'est que, à l'évidence, on voit bien qu'il y a, dans notre peuple, une montée... qu'on essaye d'ailleurs de déguiser en disant les Français
exactement.
Sont de plus en plus favorables à l'immigration, au vote des étrangers et tout. On sait très bien que c'est faux. Ou alors je ne sais pas où ils vont chercher ces Français-là.
Oui,
moi, je ne les rencontre jamais. Mais vous, la Voix des Français, vous proposez des manifestations. Ça avait été déjà le programme lancé par M. Lambert il y a deux ans.
En 96, 97, 98.
Voilà, une montée en puissance, de plus en plus. Bon, voilà. Et puis on a bien vu ce qui s'est passé. C'est qu'il y a un moment où il y a une désaffection, il y a une rupture et les gens ne vont plus aux manifestations. Donc on arrête de les faire parce qu'on n'a pas le résultat. résultat qu'on veut, parce qu'il n'y a pas d'esprit de mobilisation suffisante. Chabanis lui propose une autre technique, qui est la technique des états généraux du peuple français sur la question de l'immigration, qui est donc de réunir des gens qui sont intéressés à la question d'une façon dynamique, et qui vont, en quelque sorte, faire une action de collecte de signatures pour
lever les états généraux,
pour lever le monde politique à agir. Mais tout ça, ça se heurte, votre projet comme le sien, comme tous les projets de cette nature, il se heurte à une détermination implacable des hommes politiques de ne pas le faire. Je signale par exemple que Séguin, à qui on a posé la question il y a quelques mois, la question de l'immigration, il a dit la chose suivante: je récuse les débats de fond. C'est admirable. Ça fait penser à Rousseau disant écartons les faits car ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Donc Séguin dit il n'y a pas de débat de fond. Chirac qui appelait, j'ai retrouvé ses écrits il y a quelques années, à l'organisation d'un référendum sur l'immigration, évidemment il ne le fera pas, c'est certain.
Mais nous le ferons.
Alors, comment est-ce que c'est possible d'organiser une chose comme ça en dehors de l'appui des classes
politiques ? Je pense une chose. Moi.
Et je vois là, pardon, une dernière remarque. Vous nous avez donné les mouvements politiques qui se sont associés à votre démarche. Mm-hmm. Il en manque quand même un d'importance dans ce débat.
Il en manque un d'important, mais là, vous touchez à d'autres.
Parce qu'il n'y ait pas le RPR, je le comprends, oui. C'est un parti de collabo, on le sait bien. Qu'il n'y ait pas le PS et le PC, c'est la moindre des choses. Quand vous me dites, il y a le MNR, il y a le RPF de Villiers, et puis j'attendais le troisième, moi.
Ben oui, mais apparemment, d'après ce que j'entends, là, je ne veux pas rentrer dans les débats, mais il me semble, d'après ce que j'entends même sur Radio Courtoisie, qu'il y a une modification profonde de la politique de ce parti dont vous ne parlez pas sur le plan de l'immigration. Il y a des choses.
Moi, j'ai lu l'article de.
Qui se sont passées.
J'ai lu l'article de notre excellent camarade. Son nom m'échappe. Appelant à en quelque sorte une communautarisation de la politique française, puisqu'il dit, puisqu'il y a des Arabes en France, qu'il y en a une nationalité française, puisqu'il y a des Portugais, des Espagnols, Smaï, effectivement. Il faut qu'il y ait des députés et des ministres, dit-il, qui soient d'origine algérienne. Moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des ministres d'origine algérienne, c'est pas la première fois que ça se produirait. Mais si ça devient un principe, on rentre dans le système de la France communautaire.
Alors, attendez. Moi, je crois quand même, c'est l'exemple qu'il faut donner. Je crois que les partis, quels qu'ils soient, les groupes, quels qu'ils soient, la question qui leur est posée, c'est de répondre à un système sémantique qui leur dit, on a des droits et on répond à ces droits. La question que je pose, elle n'a rien à voir avec ça. C'est une politique volontariste. La politique volontariste, ça sous-entend quoi ? C'est qu'à un moment donné, quand la citoyenneté française, dont on est tous citoyens français, je crois que qu'on soit au MNR, qu'on soit au PS, au RPR, on est citoyen français. Quand a lieu un débat à l'Assemblée nationale où cette citoyenneté est réduite à zéro, et je vous ai remis des lettres de députés, je vous demanderai, et d'hommes politiques qui ont trait à ces lettres, vous voyez des hommes politiques très influents, qui disent, qui se justifient par rapport à cette idée des états généraux. Pourquoi ? Et des hommes politiques très importants, venant de bords complètement différents. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on leur dit, le peuple français reprend sa citoyenneté. Et les états généraux, que vont-ils faire, les états généraux ? Ils vont définir la citoyenneté française, parce qu'elle n'est pas dans la Constitution. Alors nous allons définir notre citoyenneté avant qu'on nous dise ce qu'est la citoyenneté française, avant que l'état parti, parce que souvent j'entends des gens confondre l'état français et l'état parti, ce qui est une confusion totale. Je dis que l'état parti PS, qui a réduit la citoyenneté française à zéro, monsieur Chevènement comme les autres, doit aujourd'hui rendre des comptes à la nation française. La nation française est un peuple. Et c'est une citoyenneté. Les états généraux définiront la citoyenneté. Comment définir? Parce que toutes ces associations, tous ces partis sont devant un fait accompli où ils ont une politique volontariste et ils vont aux états généraux ensemble. Et ensemble, nous allons gagner pour une fois, nous allons gagner une guerre. Nous allons pas partir séparés. Nous allons gagner une guerre parce que c'est de la citoyenneté de tous les Français qu'il s'agit. Ça, c'est pas la citoyenneté vue par un tel parti, vue par tel parti. Nous allons définir aux états généraux la citoyenneté. Et je vais préciser ce que j'annonce aujourd'hui. Sortira de ces états généraux la nouvelle constituante que nous voulons. Parce que vous lisez le Figaro d'hier, vous lisez le Monde. Ils sont en train de nous préparer une constituante, la destruction définitive de la citoyenneté telle que les Français l'ont, ça date pas de 1789, ça date de bien avant, l'avait créée avec des nuances, bien entendu, avec des systèmes politiques différents, mais la citoyenneté française, c'était une chose, le droit de cité existait en France bien avant 1789 et avait été régénéré. Alors je dis, il y a eu un vote qui est un déclic qui devrait être pour tous les hommes politiques et les associations. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, où des députés majoritaires, le PS, le Parti de l'étranger, qui devient le Parti de l'étranger, dit « Vous n'avez plus de citoyenneté, l'étranger a la même citoyenneté que vous ». Alors à ce moment-là, je dis « Réunissons les États généraux et définissons la citoyenneté ». À ce moment-là, un peuple se lève et n'attend pas que Monsieur Chirac n'attend pas. Comment se sont fait? Personne n'attend. On n'attend pas, on y va. Le principe du combat politique, c'est ne pas attendre que l'on vous donne. Depuis combien de temps les gens attendent un référendum? Il faut plus le demander, il faut le prendre. Comment peut-on prendre un référendum? Par les États généraux. C'est tout. Et je dis ceci. On nous définirons sortir. Alors. Que se passera-t-il? Il y aura une journée d'études complète, dans laquelle, par exemple, il y aura langue française et questions référendaires, puisque notre langue est mise à mal. Il y aura constitution et questions référendaires. Que veut le peuple français quelle constitution veut le peuple français? Il ne faut pas attendre qu'il nous sorte une constitution socialisée complètement, mondialisée, comme on dit, mais qui est liée, en fait, à l'international socialiste. La mondialisation, c'est quoi? La mondialisation, c'est le grand projet de l'international socialiste. Les gens tombent des nues. Mais la mondialisation, ça n'existe pas. Il existe simplement l'international socialiste a mis un schéma directeur depuis plusieurs dizaines, centaines, depuis 100 ans, au moins minimum 100 ans, de manière pratique, pour détruire les nations européennes. Alors, nous sommes un peuple millénaire, et on nous dit, l'étranger va voter, il a la même citoyenneté. Moi, je dis, moi, vous savez, je suis bête, moi. Je suis un vrai démocrate. Et je dis, si tu me retires ma citoyenneté, étant un vrai démocrate, contrairement à vous, Serge, moi, je dis, écoute, à mon homme politique, je lui dis, tu m'enlèves ma citoyenneté, moi, je te la repique. Je te la repique, comment? 1789, on fait les états généraux, t'as changé ma citoyenneté. Eh bien, moi, je la reprends. Et je lève les gens. Parce que si l'on continue à attendre que 70 députés, je peux vous montrer des listes, 80 députés, 10 députés là-bas, 10 députés dans le Parlement, se lèvent pour nous rendre ce qu'ils nous ont pris, mais vous rêvez, messieurs. Vous rêvez.
Ok. Alors, on va en rester là parce que j'ai déjà dépassé largement le temps que je vous avais imparti. Mais
pour les appels précis.
Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. Samedi, à quelle heure, à quel endroit, monsieur Clément, vous nous avez dit place Vauban, à quelle heure?
Alors, place Vauban à 14h30.
14h30. Et manifestation déclarée, autorisée.
Ah oui, bien entendu.
Je le précise parce que souvent des auditeurs. Les personnes âgées se disent, oh là là, mais...
Oui, elle est autorisée. Le trajet que j'ai donné a été accepté par la préfecture de police, sauf possibilité toujours, vous savez, dans les 3 jours de le changer. Mais enfin, pour l'instant, officiellement, c'est un trajet. Je voudrais redonner le numéro de la Voix des Français, pour ceux qui voudraient appeler. Mmh. C'est le 01 42 67 22 05. Et je fais un appel dernier aux auditeurs. Je l'ai fait la semaine dernière. Nous allons avec le comité SOS spoliation et violence, en tout cas nous faisons toutes les démarches avec les syndicats de police pour ça, prendre probablement, en tout cas offrir la défense du policier de Lille. Mmh. Donc j'engage les auditeurs, comme ils l'ont fait très bien depuis un an et ils nous ont permis de défendre 2 ou 3 personnes devant les tribunaux, à nous envoyer leurs dons au comité national de soutien. SOS, enfin la Voix des Français et boîte postale 23, 92 204 Neuilly-sur-Seine. On en a besoin, on a fait de la bonne ouvrage avec ce qu'ils nous ont envoyé, il faut qu'ils continuent.
Oui.
Pouvez-vous rappeler de façon claire et explicite, nous demande cette auditrice, quels sont les partis politiques constitués qui appellent à manifester avec vous?
Les partis politiques constitués, on dit bien ces 3 termes-là, car il y a des hommes politiques seuls, des députés qui vont venir et qui
appellent leur parti.
Mais les partis politiques, c'est ceux qui nous ont reçus au siège et qui ont mis dans leurs journaux intérieurs qui avaient une manifestation le 13 mai de la Voix des Français Renaissance et qu'il fallait y venir, ce sont le RPF et le MNR.
Très bien.
C'est clair?
Alors un auditeur dit qu'il faudrait qu'un membre du Front National puisse prendre la parole samedi à côté de toutes les autres personnalités.
Écoutez, pour l'instant, nous avons organisé ceux qui se sont présentés.
Voilà.
Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Nous n'avons aucun ostracisme.
Hein. Puisqu'on parle de ça, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait de bonne politique, de bonne guerre, de bon calcul, de permettre à un représentant du projet de référendum, enfin d'États généraux, Chabanis par exemple, de s'exprimer pendant une ou deux minutes pour lancer un appel?
Là, vous me posez une question auquel je ne peux pas répondre, car
soumettre à un comité directeur.
Voilà, c'est ça, parce que je n'ai pas fait le nombre de
personnes. Je dois dire que je dois présenter d'ailleurs le projet devant le comité directeur de la Voix des Français le 17 mai. Mais ça serait bien, il est évident que je parle à cette manifestation.
Okay. Alors, voilà. En attendant, une adresse à laquelle on peut vous contacter, Alexandre
Chabanis. Deux, trois points importants.
Mais vite, parce qu'on est très en retard.
Nous cherchons toujours un local sur Paris. Si quelqu'un a un local sur Paris à nous prêter pendant 6 mois, ça sera intéressant. Nous tirons jusqu'à 20 000 documents par semaine maintenant. On peut tirer jusqu'à 20 000 documents, donc maintenant on peut envoyer des quantités importantes de tracts toutes les semaines. Donc par contre, nous cherchons toujours nous avons donc le papier et nous cherchons toujours un monsieur imprimeur qui nous ferait cette grande affiche d'un mètre 20 que nous allons maintenant coller sur tous les murs de France. Donc alors vous pouvez nous contacter puisque les états généraux se poursuivront bien entendu pendant 6 mois et qu'il faut que toute cette démarche soit unitaire, et c'est là où nous gagnerons le combat. Alors, nous tenons à disposition tous les documents de référence avec le mode d'emploi, puisque nous fournissons un mode d'emploi avec le document de base, de synthèse, comme on dit. Alexandre Chabanis ou FLN, Front de Libération Nationale, 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt, 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt, téléphone fax 01 30 40 03 71, téléphone fax 01 30 40 03 71. Pour finir, une anecdote pour ceux qui sont des soldats. Dernièrement, j'ai eu un colonel qui était, colonel, on peut l'appeler, le colonel Maslow, qui m'a appelé de Bordeaux et qui m'a dit Chabanis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai dit, mon colonel,
tout le monde connaît. Déjà fait pas mal quand même.
Oui, je lui ai dit, mon colonel, quel âge vous avez? Il me dit, 89 ans, Chabanis. Alors, je lui ai dit, mon colonel, vous avez un grand carnet d'adresses? Ah oui, Chabanis, j'ai un grand carnet d'adresses. Alors, il m'a dit, alors je lui ai dit, mon colonel, envoyez surtout votre carnet d'adresses et je pense qu'on fera les états généraux.
Merci Alexandre Chabanis, merci Monsieur Clément. À samedi
13 mai, 14h30, place Vauban.
Voilà, samedi 13 mai, 14h30, place Vauban. Toutes les autres adresses et toutes les autres heures qui ont été données sont fausses. Oui, y compris par moi d'ailleurs. Donc samedi 13, 14h30, place Vauban. Voilà. Merci.
Et merci à vous Serge Becquette.
Merci Serge, merci les auditeurs et à bientôt.
À bientôt. André, vous y serez, vous, place Vauban?
Je ne sais pas encore. Je ferai ce que je pourrai, mais je ne suis plus un athlète.
Vous êtes un gambe.
Oui, un gambe.
Un gambe, ça veut dire maintenant qu'il a du mal à se déplacer.
Eh oui.
C'est le nouveau français. Alors, tout un gambe que vous êtes, vous revenez quand même d'un des plus beaux lieux de France, qui est Sainte-Madeleine-du-Barou.
Parfaitement.
Comment ça se passe là-bas?
Tout à fait très bien.
Comment va Don Gérard?
Il va avec de mauvaises jambes, précisément, mais il assiste quand même à tous les offices et il célèbre le dimanche la messe pontificale.
Alors, vous m'avez apporté une brochure qui est une pure splendeur. Alors,
oui, qui
vient de sortir de l'abbaye, un recueil de photographies de l'abbaye terminé maintenant pratiquement.
Ah oui, terminé, tout à fait. Oui.
Tout à fait, même. Et c'est véritablement un lieu magique, non pas magique, complètement paradisiaque. Enfin, c'est une splendeur, vraiment. Hein. Et vous me disiez que cette brochure est en vente à la porterie de...
Oui, mais ils vont la vendre par correspondance.
Ils vont la vendre par correspondance. Donc j'annoncerai dans le Libre Journal comment on peut se la procurer, mais ça vaut vraiment la peine, elle est magnifique. Magnifique, il y a des photos.
Oui, elle est d'un prix modique, 50 francs, oui, c'est accessible à tout un chacun.
Des splendides couleurs. Et votre livre, il est à combien, lui?
À 850, évidemment.
C'est pas un prix modique, là.
Et il n'y a pas de photos.
Il n'y a pas de photos en couleur. Remarquez des photos de vous, on peut assez facilement s'en passer, quoi.
Exactement, surtout
maintenant. Comme de moi-même, bien entendu. Ah, c'est vrai, quand vous étiez tout jeune homme, vous étiez assez, assez joli garçon. J'ai vu des photographies de vous, notamment dans votre précédent bouquin, quand vous étiez en camp de prisonnier.
Pas de prisonnier, un militaire.
Ah oui, un militaire. Quand vous avez été prisonnier en Espagne.
Ah oui, en Espagne.
Voilà. Alors là, vous nous proposez le fou de l'Élysée. On peut en savoir un petit peu plus?
Ah oui, on peut, il faut.
C'est pas trop compromettant.
Je ne sais pas, mais j'ai évacué le problème du compromettant. À mon âge, ça n'a plus d'importance.
Vous n'avez pas peur de briser votre carrière ?
Non. Ah, à mon âge, ça n'a plus d'importance. J'ai dépassé 76 ans, je suis bon.
Mais j'ai pas le souvenir que ça en ait jamais eu beaucoup.
Non, mais de moins en moins.
Ça fait la première fois que je vous ai rencontré, je crois que vous deviez avoir 45 ans à peu près.
C'est possible.
Et j'ai pas le souvenir que vous étiez quelqu'un de particulièrement arrangeant, prêt aux compromissions.
Je n'ai pas tellement donné dans le truc.
La zoologie du Palais Bourbon, des choses comme ça, c'était pas spécialement.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez, un incident à la suite de l'apparition de cette zoologie qui a été mon premier bouquin un petit peu éclatant, j'avais été invité à déjeuner par un monsieur qui s'appelait Bouillonnet, qui était le maire de Font-Romeu, le propriétaire d'un grand hôtel du boulevard Haussmann, et une éminence grise du Parti radical. Je n'avais pas très bien compris pourquoi il m'invitait à déjeuner, et je me suis trouvé avec le chef de la police, je ne sais plus quel était son nom, et qui m'a expliqué discrètement que si je voulais avoir 1 million de l'époque et puis m'engager à ne plus refaire de tirage, on me rachèterait tous les exemplaires restants et qu'on pourrait s'arranger comme ça. Je lui ai ri au nez.
Ben, vous avez eu bien tort.
Ben oui, parce que depuis on n'a plus jamais fait d'offres.
Ben voilà. Est-ce que vous savez ce qu'il fallait faire ? Il fallait prendre le fric et puis rééditer le bouquin en disant une parole donnée à une crapule n'a strictement aucune valeur. Donc voilà, et il va pas porter plainte quand même.
On m'a expliqué aussi que si j'étais drogué ou pédéraste, parce qu'à l'époque, pédéraste était encore...
Et maintenant, ça vous fait maire de Paris, alors c'est
ben
comme...
Oui.
C'est plutôt un avantage.
Oui, maintenant, oui.
Ça change. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas avoir être et avoir été.
Mais non, j'ai jamais été pédéraste.
Vous savez même pas ce que ça veut dire, en réalité, je soupçonne. On avait une vague idée.
Ah non, parce que la définition d'André Gide... Quand il dit les pédérastes dont je suis, ce sont ceux qui aiment les petits garçons et pas les autres hommes.
Encore mieux.
Bon, enfin, voilà. Gazon.
Gazon. Donc, le fou de l'Élysée. Alors, le fou de l'Élysée, la malédiction du général. Vous voulez dire que le général a rendu fou ses successeurs
Oui. Enfin, je pars du principe qu'il existe une atmosphère dans les locaux qui est provoqué par les gens qui y habitent, ou par ce qui s'y passe. Pour en revenir justement au Barou, j'explique que j'ai vu construire l'abbatiale et que les premiers temps, c'était un édifice qui n'avait pas d'âme et qu'il a acquise peu à peu, par la répétition, 7 fois le jour, 1 fois la nuit, ça s'accumule vite, des offices liturgiques. Il s'est créé, les murs ont acquis quelque chose.
Bien sûr.
Et je me rappelle avoir été invité par Mgr Vac, que vous connaissez bien, il y a quelques années à la messe qu'il célébrait dans une petite église de campagne où le curé n'avait jamais célébré la messe moderne. Eh bien, je trouve que ça se sentait. Et il y a les murs n'ont peut-être pas des oreilles, mais ils ont une espèce de manière d'absorber les effluves spirituelles ou pas spirituelles. Et je pense que quand un homme, comme le général de Gaulle, pour ne pas le nommer, est atteint d'une schizophrénie intense, que tout le monde savait, au fond, car ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde savait qu'il était fou. Pompidou a dit à des amis, j'ai été au service d'un fou. J'ai une lettre du général Jouot qui me dit, De Gaulle était fou. J'ai une lettre du général Salan, écrite à Tulle, ça fait déjà du temps, me disant, nous allons vers une sortie à la Deschanel. Ça a pris une autre forme. Mais quand on regarde maintenant les vieilles actualités, les actualités de l'époque, comme nous étions dans le bain et combien... Ça pouvait nous... C'était trop dramatique. Et on ne les regardait pas objectivement. Mais de temps en temps, on nous repasse des petites bandes. Mais vous voyez cet homme, il est complètement cinglé. Son expression, son visage, sa fureur, son ton. Mais tout ça est extraordinaire. Alors, je pense qu'il a, à l'Élysée, où il est resté tout de même 10 ans, si je ne m'abuse, ou 11... à l'Élysée, la violence de son anomalie a été, parce qu'il y avait en lui un charisme, c'est vrai, je l'ai vu affoler des foules, littéralement, il émanait de lui quelque chose de puissant. Malheureusement, ce puissant était morbide et nocif, mais selon ma théorie, que rien ne prouve et que je ne saurais établir physiquement, mais selon ma théorie, ces effluves-là imprègnent les murs. Et il en reste quelque chose. D'ailleurs, quand vous entrez dans une maison qui a été inhabitée depuis un certain temps, vous sentez qu'il manque l'atmosphère. Et quand vous entrez dans une maison habitée, il y a une atmosphère que vous remarquez et qui n'est la même nulle part ailleurs. Chaque maison, chaque logis a son atmosphère plus ou moins prégnante, mais qui est créée par les gens qui y vivent. Eh bien, je pense que l'Élysée a reçu une dose formidable d'effluves d'aimants et que effectivement ça a imprégné les suivants, plus ou moins selon les cas. Le moins fou a été sans doute Pompidou. Giscard, je l'appelle le fou follet. Le plus fou, finalement, a été Mitterrand.
Ah, mais c'était magnifique.
Mais d'une façon passionnante. La folie de Mitterrand est extrêmement intéressante.
Comment ? Il se prenait pour Mitterrand.
Oui, c'est ça. Il ne se prenait pas pour De Gaulle, contrairement à Chirac, qui doit avoir cette impression. Tout petit De Gaulle, beaucoup moins fou, mais fou quand même. Et ils sont tous détraqués aussi par l'extrême puissance.
Mais oui, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou, oui. Absolument.
Or, ces messieurs, les uns après les autres, ont eu en fait, entre les mains, si je puis dire, un pouvoir bien supérieur à celui de Louis XIV. Avec cette différence que Louis XIV avait été élevé pour exercer ce pouvoir, que ça ne lui tournait pas la tête, parce qu'il trouvait ça normal, qu'il pensait qu'il était fait pour, tandis qu'eux qui se sont trouvés brusquement avec des capacités extraordinaires, notamment sur le plan financier, car Dieu sait les masses d'argent que Mitterrand, par exemple, a dû accumuler, et dont personne ne sait peut-être où elles se trouvent.
Oh, il doit bien y avoir une ou deux personnes qui savent aller, vous faites pas de
problème. Je ne sais pas, mais il a amené au suicide des gens qu'il avait dû utiliser pour récupérer cet argent. Et il a fait ses édifices. Bon, la folie des édifices, De Gaulle nous l'a un peu épargné. C'est déjà quelque chose. Il n'a rien bâti de lait, parce qu'il n'a rien bâti du tout. Pompidou a fait faire ce centre Beaubourg, qui est une immondice au milieu du marais.
Mais alors lui, était carrément givré, lui.
Quelque chose de pas normal, tout de même.
Centre Beaubourg.
D'avoir fait un truc avec tous les tripes à l'air, une espèce d'usine à gaz renforcée, rendue plus laide encore que l'utilité leur a voulu. Bon, et Mitterrand, avec son opéra de 4 sous, de beaucoup de sous, en réalité, oui. Et sa bibliothèque, qui est tout le temps en grève parce que ça marche mal. Et cette pyramide du Louvre
qui détruit les vieillards avec une rapidité extraordinaire, parce que les marches sont glissantes, c'est une véritable patinoire. Donc quand il pleut, si vous voulez aller à la baie, c'est comme la passerelle. Moi, je suis sûr que la plupart des bâtiments des constructions récentes à Paris, c'est des bâtiments.
C'est de l'euthanasie.
C'est de l'euthanasie, absolument. Le critère fondateur de l'architecture moderne, c'est l'euthanasie du vieillard.
Et parce même que la passerelle des arts. La pyramide du Louvre. Autrefois, on entrait au musée du Louvre tranquillement, à l'abri. Maintenant, il faut faire la queue dehors. Très longtemps, sous le soleil tapant ou sous la pluie battante.
Ben, je vous dis,
c'est pas excellent.
Sans compter que la pyramide, comme vous le savez, démontre que déjà sous les Égyptiens, les hommes travaillaient de moins en moins.
Oui.
Bon, mais j'ai très envie de le lire, moi, ce...
Oh, ben, il n'est pas très long. Alors, je veux seulement préciser qu'il est écrit deux fois. Il est signé deux fois André Figueras. Parce qu'à
force d'enquêter, vous avez fini par tomber malade, vous aussi.
Oui, mais j'avais écrit une première version quand j'étais au plus bas, physiquement et moralement. Et puis, quand j'ai commencé à remonter la pente et que je me suis retrouvé au barreau, où ça allait beaucoup mieux, j'ai écrit une seconde version.
Alors, c'est la version B qui est plus...
Pas plus riante, parce qu'il n'y a pas de quoi rire, mais qui est plus dégagée d'un certain pessimisme. peut-être plus objective. En tout cas, quand je me suis trouvé en présence des deux versions, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les fonds? Est-ce que j'en sacrifie une? Finalement, ça n'allait pas. Vous savez comme moi que quand il faut refaire des textes, c'est extrêmement difficile. Ou alors, il vaut mieux les faire carrément de nouveau. Et je me suis dit, après tout, chaque version me paraît avoir sa qualité et être une réaction différente selon l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Il n'est pas impossible que la comparaison de ces deux versions fournisse un élément de jugement.
Alors, je vais lire le prière d'inséré, parce que ce qu'on appelle la quatrième de couverture, parce que oui, c'est rare qu'une quatrième de couverture donne autant envie de lire un livre.
Ah bon?
Ah oui, je trouve. Alors, je vais vous lire ça. Lorsque Lord Carnarvon viola la tombe magnifique de Toutankhamon, plusieurs de ceux qui participèrent à l'opération furent frappés d'un mal inconnu dont certains moururent. On parla du coup de la malédiction du pharaon. Sauf dans ses rêves de mégalomane, De Gaulle n'avait certes rien d'un pharaon. Pourtant, André Figueras se demande s'il n'aurait pas en quelque sorte enduit les murs de l'Élysée d'effluves délirants qui ne seraient pas sans influence sur le comportement plus d'une fois bizarre de ses successeurs. Quant à savoir pourquoi ce livre est signé deux fois Figueras, vous en déchiffrerez l'énigme en lisant l'avant-propos. Alors, si on ne lit pas l'avant-propos, et derrière le livre, alors c'est qu'on n'a vraiment pas de plaisir à la lecture. C'est celui que vous présenterez dimanche.
Oui, bien sûr. Il est tout juste sorti. Il y en a encore que très peu d'exemplaires en circulation.
Donc nous en aurons
Mais il y en aura, bien sûr.
La primeur.
Apparemment, oui.
Merci, André.
Merci, à dimanche. Un auditeur nous dit, je proteste. On ne dit pas le fou de l'Élysée, mais le bachibouzouk de l'Élysée.
Le hanneton, disait. C'est vous qui avez inventé le hanneton.
Non, c'est Coston, je crois.
Ah, c'est Coston.
Je crois bien, oui. Je ne voudrais pas lui attirer d'ennui.
Mais alors lui, il a fait son plein.
Mais je pense
le sac est tellement plein qu'on ne peut plus rien y mettre.
Voilà, et bien merci
beaucoup.
Alors,
à dimanche.
Accueilli, entendu.
Alors, Jean-Michel Pedrazzani, je précise que vous êtes là en tant qu'auteur d'un livre sur les prénoms et que tout ce qui a été dit avant, tous les propos politiques qui ont été tenus avant, ne vous engage naturellement pas. Vous n'êtes pas venu faire proclamation politique ou une adhésion politique, vous êtes venu présenter un livre qui est que j'ai trouvé très bien fait. Il y a beaucoup de livres sur les prénoms.
Oui, ça, mais, il y a pléthore de livres sur les prénoms.
Mais d'une part, ils ont tendance à dater assez vite, puisque les prénoms deviennent de plus en plus variés.
Oui, il y a un turnover extraordinaire, ouais. Effectivement.
Et puis d'autre part, il est fait d'une façon amusante, parce qu'il mélange tout ce qu'on aime bien mélanger aujourd'hui, oui. C'est-à-dire un peu d'astrologie, un peu de numérologie, un peu de tout ça. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que le prénom, puisque vous avez étudié cette question à fond et pendant longtemps, que le prénom agit réellement sur la personnalité?
Alors ça, c'est tout à fait nouveau. C'est après les crises que nous avons connues dans l'emploi, il y a eu de plus en plus de personnalités qui se sont attachées à créer des officines dans lesquelles on venait déposer des candidatures pour essayer de trouver du travail. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les ethnologues, les psychologues, les psychanalystes se sont mêlés de tout ça et ont commencé à attirer l'attention de ces personnes qui étaient chargées de rechercher des têtes pensantes, en leur disant tout simplement, mais oui, quand on s'appelle Gaëtan Dupont ou je sais pas moi, Désiré pour le prénom et Delors pour le nom, Désiré Delors, ça fait mauvais effet. Et je pense que quelque part, je pense que quelque part ça fonctionne pas. Mais moi j'ai pu constater des choses absolument extraordinaires. Par exemple, j'ai connu une dame qui s'appelait Madame Rapide et qui avait prénommé sa fille Micheline. Bon, c'est absolument inouï de voir des choses comme ça.
C'est comme les gens qui s'appellent Renault, qui ont appelé leur fille Mégane.
Oui.
Moi, quand j'étais à l'école militaire, j'avais un camarade qui s'appelait Caillou, et ses parents, naturellement, l'avaient appelé Jean-Pierre.
Oui.
Et un autre qui s'appelait Aymar, et ses parents l'avaient évidemment prénommé Jean. Mais il y a un moment où on se demande, parce qu'on peut pas imaginer que ce soit un mauvais tour, donc il y a un moment où on se demande si c'est pas une espèce de malédiction, non pas de Toutankhamon, mais...
Oui, mais alors, donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pour ça que, dans le fond, ce livre sur les prénoms m'a amusé, parce que bon, j'ai écrit écrit une cinquantaine de bouquins, dont 25 sous mon nom. Et enfin, ce n'est pas de la provocation, mais j'ai été un nègre assez célèbre.
Ouais, ça se voit pas du tout. Hein. Vraiment, hein.
Donc, j'ai écrit beaucoup de bouquins. Et celui-là m'a amusé parce que j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens qui avaient des prénoms dont ils n'étaient pas satisfaits et qui changeaient de prénom. Et bizarrement, il y avait une espèce de mise en condition à partir du moment où la personne changeait de prénom, eh bien, elle arrivait à rebondir, ce qu'elle aurait pu faire d'ailleurs avec son prénom. C'est simplement une espèce de mouvement qui fonctionnait mieux parce que cette personne retrouvait de l'assurance avec un nouveau prénom.
Est-ce que ça veut dire que... Il y aurait presque une vérification statistique de ce que vous dites. Par exemple, est-ce qu'il y a plus de chômeurs qui s'appellent Anatole ou d'officiers de police qui s'appellent Gaëtan
Là, je ne me suis pas livré à ce genre de travail parce que déjà, il a fallu que je fasse pour présenter un livre un peu original et qui change par rapport à ceux qui existaient déjà, une recherche qui s'appelle la psychonomatologie. C'est une recherche, en fait, sur la science des prénoms, mais vraiment. Et alors, il y a des caractérologies qu'on retrouve parce que lorsque on est un lundi ou un mardi ou un mercredi ou un jeudi ou un vendredi, un samedi ou un dimanche, eh bien, on ne réagit pas dans la vie de la même façon.
Ça fait partie de la sagesse populaire, c'est puisque on dit apparition, on dit bah toi t'es né un dimanche.
Voilà.
Ou alors quelqu'un qui mange beaucoup, on lui dit bah toi t'es né au moment de te mettre à table.
Voilà.
Et c'est
le bon sens populaire finalement que j'ai repris et j'ai fait un travail qui m'a paru pour moi très très intéressant sur justement ces images et sur ce que le bon peuple de France dit et pense à propos des prénoms.
Est-ce que par exemple, puisque vous évoquez ces questions, est-ce que vous avez trouvé un lien statistique au moins approximatif entre la date de naissance et le prénom? Alors, est-ce qu'on s'appelle plus facilement Émile si on est né au mois de mai que...
Non, mais il y a quelque chose de tout à fait nouveau maintenant, c'est que ce prénom du calendrier, là que j'ai fait paraître, ne tient pas compte tout à fait de l'ordre alphabétique. J'ai, au contraire, pris soin de parler des prénoms de l'année légale, c'est-à-dire que ça commence le 1er janvier et ça se termine le 31 décembre. Pourquoi ? Parce que ça me permettait à la fois d'évoquer tous les saints du calendrier, ceux qui ont encore la cote maintenant et ceux qui ont disparu, parce qu'on s'aperçoit aussi en regardant des calendriers qui ont 100, 120 ans ou 130 ans que les dates des saints changent.
Oui,
et ça reste pas immuable. Donc j'ai mis les saints qui sont à l'honneur actuellement, mais j'ai bien pris soin également de
mettre les autres,
ceux qui ont été
tous les prénoms dérivés. Et puis également tous les prénoms des autres saints qui sont fêtés le même jour, mais qui n'apparaissent pas dans le calendrier
et
grand public.
Et des prénoms qui sont des néologismes et qui n'appartiennent pas à la famille des saints.
Il n'y a pas circoncision dans votre bouquin, alors que circoncision, c'est un prénom assez répandu dans certaines régions d'Afrique.
Oui, il n'y a pas circoncision, mais il y a Fetnat.
Ah, il y a Fetnat.
Oui, il y a Fetnat.
Circoncision,
pourquoi? Parce que pendant longtemps, on prenait le calendrier, le petit garçon ou la petite fille naissait le 14 juillet, il y avait marqué Fetnat, on se disait tiens, bah c'est Fetnat, voilà.
C'est un joli prénom d'ailleurs.
C'est un très joli prénom, mais on s'aperçoit aussi de plus en plus et je crois que c'est assez nouveau. Que maintenant, chaque fois que le prénom n'est pas ridicule, on donne à la fête du on donne par exemple à la personne qui naît un 9 février
oui, non, on donne le prénom du jour
qui correspond.
Ah bon.
Oui, c'est assez nouveau, c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu
c'est très ancien en Afrique, c'est pour ça qu'on appelait les gosses fête date ou circoncision.
C'est très ancien en Afrique.
C'est peut-être parce que là en ce moment les habitudes africaines sont en train de
je crois que le paysage culturel français je crois que c'est tout à fait économique. Je crois que les gens en ont assez d'avoir la fête des mères, des grands-pères, des pères, des tantes, des machins, etc. Et ils se disent, bon, eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Clarisse, il est né le 12, on va appeler notre petite fille Clarisse. Voilà.
Un enfant gentil, c'est l'enfant qui naît le jour de Noël, qu'on appelle Noël, comme ça vous avez l'anniversaire, Noël, la fête, voilà. La fête des
oui, là vraiment c'est très très économique et je ne saurais trop recommander aux parents de prendre leur disposition de façon à ce que la naissance intervienne vraiment.
C'est joli, mais il a une seule fête
à la fois.
Ah, c'est bien fait pour lui.
Non, mais ce qu'on remarque aussi dans les prénoms, c'est des choses extraordinaires, c'est que des prénoms extrêmement célèbres sont devenus des patronymes. Gabin, par exemple, c'était Jean Gabin. Il y a comme ça toute une série de prénoms qui sont devenus célèbres, comme Michel et Morgan.
Alors, est-ce que ça joue ça? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez constaté, c'est une question qu'on pose toujours, mais est-ce que vous constatez, par exemple, que Patrick est devenu un prénom très répandu ou...
Ah oui, alors non, mais là, il y a des prénoms qui ont disparu et d'autres qui reviennent. Par exemple, Mathieu était un prénom absolument inconnu jusqu'en 1955-60.
C'était un prénom de paysan au 17e siècle. Ouais.
Alors, on avait les pieds dans la glaise, on s'appelait Mathieu et c'était... Le père Mathieu,
c'était déjà ancien
en 1950. Eh bien, maintenant, il y a une floraison de Mathieu, de Jules, d'Arthur, Jules, oui. D'Adrien, et même d'Adrien avec une hache.
Très élégant.
Voilà, qui est très, très, très élégant. Et des prénoms mythologiques aussi qui reviennent, Achille. On voit des choses comme ça. Et dans les prénoms, moi, ce qui m'amuse beaucoup, ce sont surtout les auteurs de chansons qui prennent comme ça un prénom qui leur est cher et qui, pour une raison ou pour une autre, plaquent dessus une musique et font des succès fabuleux avec des prénoms qui deviennent à la mode et que les gens vont spécialement donner à leur enfant tout simplement parce qu'ils aiment la musique.
Ignace, non,
Ignace
et Félicie.
C'est un petit nom charmant, Ignace.
On va aller chanter, tiens. On nous dit Jean-Belel Bokassa a été prénommé ainsi car son père a lu sur le calendrier l'abréviation de Jean-Baptiste de La Salle, qui était le jour de naissance de son fils.
Oui, oui. Ah oui, mais ça c'est merveilleux, c'est une très bonne anecdote. Oui,
Alors, vous évoquez les qualités.
Oui. Ah oui, justement.
Les qualités propres à certaines personnes qui portent le prénom. C'est sérieux ou pas, ça?
C'est un travail passionnant. C'est pas moins sérieux que les horoscopes, soyons sérieux.
D'accord, si vous n'avez que ça comme argument.
Voilà. Non, voilà, je dis que c'est pas moins sérieux. Il y a des caractères communs, c'est vrai. Quand on est conçu l'été, on réagit pas exactement de la même façon que quand on est conçu l'hiver. Et ça, c'est une évidence. Bon. Si vous naissez un dimanche, c'est aussi le jour du repos, le jour du Seigneur, et il y a une grande différence avec quelqu'un qui naît le dimanche et quelqu'un qui naît un lundi où on commence à aller travailler et où on prend sa camelle et où on va au charbon tranquillement. Là aussi, il y a des choses qui m'ont paru intéressantes. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai donné des clés sur la numérologie, c'est-à-dire de 1 à 31, des renseignements assez précis sur sur ces chiffres qui permettent de s'y retrouver un petit peu et qu'ont des significations depuis la nuit des temps.
En tout cas, moi, je me suis bien amusé à le lire. Bon, on n'est pas forcé d'être d'accord avec tout, mais il y a toujours des petites notations rigolotes, puis on apprend beaucoup de choses.
Oui, et puis j'ai surtout essayé de donner à chaque fois un petit proverbe que j'ai retrouvé alors là dans la France profonde, oui, parce que pendant des années et des années j'ai eu sur RTL une émission qui s'appelait Tout le monde en parle, où j'envoyais des reporters ou moi-même j'allais dans la France profonde et où chaque fois qu'on me donnait un petit proverbe comme ça, je le notais en me disant un jour ça me servira, et là ça a été vraiment évidemment l'occasion rêvée.
Mais je vous remercie d'être venu. Vous viendrez nous voir dimanche ?
Oui, bien sûr.
Bon, alors parfait. Donc vous pourrez présenter votre livre aux 187 000 personnes qui sont attendues à la mutualité. Vous allez voir ce que c'est la mutualité.
Je serai très très content.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire, vraiment.
Oui, alors.
C'est très inattendu parce que pour une petite radio comme la nôtre, encore que c'est une radio mondiale.
Mondiale, j'ai entendu ça.
Une petite radio comme la nôtre. Qui s'honore de recevoir un professionnel comme vous de la radio, eh bien, vous allez voir ce que c'est quand même que la fête du livre de Radio Courtoisie le 14 mai à la Mutualité. C'est quelque chose d'assez étonnant.
Oui.
Je suis vraiment
c'est
très très content parce que le livre a vraiment besoin de supporters.
Oui, vous avez raison.
Et je crois que un bon livre, c'est quand même encore et toujours un merveilleux ami.
C'est vrai. Merci beaucoup Jean-Michel Pedrazzani et à dimanche alors.
Merci, à dimanche, au revoir.
Très étonnant cette musique, Michel. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est de la musique du rhodope, des cornemuses. Ils en ont. Vous n'avez pas reconnu la cornemuse ?
J'ai reconnu effectivement un instrument qui peut ressembler à la cornemuse. Ou à,
c'est de la musique populaire bulgare. C'était la musique de berger.
Alors, vous revenez de Bulgarie, où vous êtes allé passer quelques jours.
Je n'en reviens pas, oui.
Vous n'en revenez pas, bien sûr, mais enfin, vous en revenez quand même. Vous êtes allé passer quelques jours
pour le libre journal écrit de la France courtoise. Combien, place 36, 4
4 place 36.
Et oui, 4 place 36. Excellent journal, c'est ça ?
Excellent journal.
Au demeurant. Vous connaissez.
Matin, quel journal ?
La partie écrite. Et parce que j'ai prolongé les 30 numéros qui avaient été faits sur la Serbie, sur la guerre du Kosovo. Et là, j'ai découvert à partir de la Serbie, du Kosovo, des routes qui étaient construites un peu partout, des grandes autoroutes avec beaucoup de fonds qui viennent de la communauté européenne, qui viennent des États-Unis aussi. Les Américains s'occupent de cette partie du monde, on ne le sait pas. Et ces routes vont jusqu'en Bulgarie. Pourquoi ?
Pas seulement jusqu'en Bulgarie,
elles partent de la Bulgarie, elles traversent la Bulgarie, elles vont jusqu'en Albanie, passent par la Macédoine et ensuite elles vont en Asie centrale.
C'est ça.
C'est ce qu'on appelle la route de la soie. Pour les lecteurs du Libre Journal, s'il y en a quelques-uns.
Bah, il y en a quelques-uns, oui. Je m'en félicite d'ailleurs pas assez, mais enfin, c'est déjà bien.
Eh bien, on l'a raconté. Et c'est en gros les raisons des guerres surprenantes qui nous arrivent, qu'on ne comprend pas, qu'on cherche à nous dissimuler en fait. On raconte beaucoup d'histoires. Ces jours-ci, Newsweek revient sur le bilan de la guerre du Kosovo en nous disant que pendant des mois on nous a raconté des bêtises. Alors peut-être on va pouvoir maintenant dire, puisque les Américains l'ont dit, que c'était du mensonge. Enfin,
alors moi, ce que je trouve quand même extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'une fois de plus, on va se faire avoir. C'est-à-dire que pendant toute la guerre du Kosovo, on nous a menti. Officiellement, les officiels chargés de l'information, c'est-à-dire depuis le premier jour, c'est-à-dire Monsieur Jemichi, nous a menti, mais c'est son travail. Il était porte-parole de la coalition, donc il mentait par
Le hanneton de l'Élysée nous a menti.
Le hanneton de l'Élysée nous a menti. Des ministres nous ont menti. Des journaux nous ont menti.
Regardez ce qu'a fait
un bouquin qui vient de sortir et dont je recevrai, j'espère, l'auteur prochainement, qui s'appelle Bombes et Bobards, qui est paru aux éditions de l'Âge d'Homme, où l'auteur recense
les coccygrues.
C'est pire que des coccygrues. C'est carrément des mensonges grossiers, des imbécilités.
Vous vous rappelez que ténébreuse. Cette émission ici, et puis dans votre journal, vous en rappelez forcément, puisque je vous en reparle assez souvent, qu'on était les seuls à avoir dit, on avait cru que c'était un risque, c'était pas du tout un risque, que les avions volant à 5000 mètres, il n'y avait pas de danger.
Ouais.
Alors qu'on nous racontait que l'OTAN tablait sur 12 avions perdus dès les premiers jours, et donc il fallait qu'on suive nos petits piou-piou. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que c'était certainement une guerre de lâches, que ça équivalait à peu près à la fille nue courant au Vietnam sous les bombes du napalm, que c'était en fin de compte des sauvages, une guerre de fils à papa contre des pauvres, qui ne peuvent pas se défendre. La réalité, c'est ça.
Et maintenant, c'est reconnu. Mais ce qui m'étonne, c'est que, une fois de plus, l'opinion publique va avaler ça,
Vous avez un service après-vente. Vous avez un service après-vente qui passe là, les Bernard-Henri, les Julliard et tout ça sont mobilisés. Le monde est mobilisé.
Mais ce qui est extraordinairement vicieux, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce système? Pendant qu'il y a la guerre,
on vous dit qu'il n'y a pas de guerre.
C'est pas une guerre, puis en plus, il se passe rien, puis etc. Et puis les autres sont des purs nazis, il faut donc les écraser comme des blattes. Et d'ailleurs, on réussit très bien à les écraser, on en a tué 50 000, on a bombardé, on a détruit 500 tanks, on a fait ci, on a fait là et tout avec des frappes chirurgicales. Bon. Ensuite, quand c'est fini, on laisse le mensonge apparaître. Il devient évident qu'on a raconté des cracks. Et quand le mensonge commence à apparaître, on dit, attendez, maintenant on va vous dire la vérité. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas exactement ça. C'est ce que
fait Newsweek. Il fallait le faire.
Mais c'est vrai qu'on
n'avait pas le choix. De toute manière, l'idée à chaque étape, c'est de dire, on n'a pas le choix.
Voilà.
Alors qu'à chaque étape, on a le choix.
Et la récupération ultime de tout ça, c'est que la prochaine fois, le jour où ils vont bombarder, je pense que
ça sera la même chose.
Ils nous diront la même chose. Et les gens, les bons gogos diront, oh ben, ce coup-ci, ils vont pas mentir, puisque ils vont pas recommencer.
Si vous vous rappelez, il y avait même une étape intéressante, à mi-guerre, qui n'était pas une guerre, c'était de dire que cette fois-ci, on nous avait raconté beaucoup moins de saleté que pendant la guerre d'Irak.
Voilà, c'est ça.
Mais la guerre d'Irak, c'est quand même 1,5 million de morts. Madeleine Albright avait dit, lors d'une interview, que, ça valait le coup de faire 1 million et quelques de morts pour l'ordre américain. Elle l'a dit, c'est reconnu.
Ouais. Ah oui, absolument, elle a dit. On lui a posé la question, est-ce que vous pensez que ça valait le coup de tuer 500 000 enfants irakiens pour ça? Et elle a dit oui.
Voilà. L'ordre américain, c'est ça, et ceux qui suivent derrière, c'est ça.
Moi, je pense exactement que... Enfin, je ne veux pas dire ce que je pense, parce que ça ne finirait pas être désagréable. Alors, maintenant, la Bulgarie.
Alors, la Bulgarie, mais justement, parce que c'est parfaitement lié.
Il n'y a pas de guerre en Bulgarie.
Il n'y a pas de guerre, mais s'il y a une guerre économique, elle existe. Et d'ailleurs, on va en parler pendant très longtemps dans le Libre Journal, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Comme tous les pays de l'Est, on a fait croire au peuple qui était de l'autre côté du rideau de fer qu'ils allaient avoir leur situation qui s'améliorerait grandement à partir du moment où la liberté triompherait. En réalité, ils n'arrêtent pas de s'appauvrir. Et en réalité, tout le monde sait que l'argent qui était dans les banques dans les pays de l'Est s'est évadé vers l'Ouest dès les premiers jours, que les patrons du communisme qui étaient en place sont toujours en place, simplement maintenant sous l'étiquette libérale, et les peuples des pays de l'Est sont plus captifs aujourd'hui qu'ils l'étaient du temps du communisme, parce qu'ils sont limités financièrement, et parce qu'on leur vole ce qu'ils ont, ce qui leur reste, pas grand-chose, mais quand même, il y a une chose que j'ai déjà dite à ce micro qui est importante, par exemple pour ce qui est de la Bulgarie, mais les proportions sont à peu près les mêmes en Yougoslavie, et sans doute à peu près les mêmes aussi dans les autres pays de l'Est, mais je n'ai pas vérifié. 93% des personnes en Bulgarie étaient propriétaires de leur appartement, ou sont propriétaires de leur appartement, ce qui est totalement inenvisageable dans les pays de l'Ouest. On n'en est pas du tout dans ces proportions. Ça veut dire que on peut leur prendre quelque chose.
Oui.
On peut leur prendre quelque chose. On peut aussi leur prendre leur capacité de travail.
Mais ce qu'on leur prend surtout, et c'est ce qui est très sensible dans le premier article que vous avez publié à la suite de son reportage en Bulgarie, ce qu'on leur prend, c'est vraiment leur âme, leur culture, leur civilisation, leur culture.
Si vous voulez,
alors, là, vous citez des exemples qui sont troublants.
Oui, mais on peut faire une petite pause musicale.
Alors on a écouté pour commencer
les chants du Rhodope,
un chant du Rhodope qui est un chant de paysan.
Un paysan. Ce qu'est la culture orthodoxe bulgare, un tout petit peu différente de la culture orthodoxe russe, un tout petit peu différente de la culture orthodoxe grecque. C'est quand même un ensemble. Il y a un ensemble
C'est rien, c'est rien.
C'est votre chien.
C'est Titan qui est en train de tousser. Il
doit
pas aimer la musique bulgare, je sais pas.
Chuchi, au contraire, je crois qu'il apprécie comme toutes les... Les personnes ici.
Donc, alors, ce que vous avez constaté là-bas, c'est que l'offensive porte, cette offensive apparemment stratégique, puisqu'il s'agit d'ajouter un module à la route de la soie pour la faire aller de l'Europe.
Oui, en gros, s'il s'agit d'expliquer vraiment les choses, c'est ça. Les Américains ont en vue les richesses qui se trouvent du côté de la Caspienne énergétique. Mm-hmm. Elles étaient dans l'orbite russe. Il s'agit de les faire passer dans l'orbite occidentale. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font attention à ce genre de choses, beaucoup plus à gauche qu'à droite. Je suis très surpris quand même que ce qui restait d'anciens communistes ne soit pas plus sensible à ce qui se passe là-bas. Et quand je dis ça, c'est que je crois comprendre qu'une bonne partie des communistes sont en co-gestion, si on peut dire, avec les grands trusts américains.
Oui, mais simplement, les mafias ont changé de clientèle, quoi, c'est tout.
Oui, ça, c'est clair. Mais les peuples sont maintenant définitivement plus opprimés, et ça c'est certain.
Ce qui m'avait frappé, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous rapportez de Bulgarie, c'est justement cette espèce de... c'est qu'on voit très bien se développer une stratégie. Il y a une stratégie de route, de grands axes de communication.
Et pourtant, on ne les voit pas quand on est sur place. Voit pas les routes, c'est ça ce qui est très curieux.
Il y a une stratégie d'asservissement commercial, d'asservissement économique.
Alors, vous avez là-bas, il faut savoir que le salaire moyen, il est de à peu près 600-700 francs moyen. Ça veut dire qu'il y a un salaire minimum qui lui est à peu près 300-400 francs par mois. On ne fait pas plus de choses avec 300-400 francs par mois là-bas qu'ici. C'est-à-dire qu'on ne vit pas. Dans les vitrines, vous voyez les mêmes produits que les produits occidentaux, les Johnson, les KitKat, enfin tous nos produits sont là présents dans les vitrines étincelantes.
Vous citiez une chose qui est très amusante, qui montre à quel point on est dans l'incohérence totale, c'est que à Sofia, il y a des milliers de chiens sans maître parce que les maîtres n'ont plus les moyens de les nourrir, ils les ont donc libérés en quelque sorte.
Oui, des chiens très doux, parfaitement agréables.
Voilà, chiens domestiqués qui mangent
pas comme le vôtre,
qui mangent dans les poubelles, et donc les gens n'ont pas les moyens. Les Bulgares,
je suis pas sûr qu'ils mangent dans les poubelles, parce que je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans les poubelles. Moi, j'ai vu des personnes fouiller dans les poubelles.
En tout cas, les Soviétiques n'ont pas les moyens de les nourrir.
Oui.
Donc, ils ne les gardent pas.
Non.
Et malgré tout, dans les supermarchés, on trouve des
réservoirs
pleins de nourriture pour chiens.
Oui.
Et on a vraiment l'impression, à vous lire, que une espèce de démon dément a plaqué les images de la civilisation européenne, de la civilisation de la consommation, de la société de consommation.
Pour qu'ils n'y puissent pas y avoir accès.
Voilà. Pour leur montrer, vous voyez ce que vous pourriez avoir, on vous le présente, vous ne pouvez pas l'acheter.
Et les produits de tradition bulgare, par exemple, je sais que vous allez parler de tomates dans quelques minutes, les tomates étaient quelque chose d'extrêmement réputé dans toute l'Europe, et on venait de Bulgarie. Maintenant, les tomates que l'on mange en Bulgarie viennent de Turquie.
Ouais.
Ça tient à l'espèce de grand mécano qui essaye de faire l'Amérique, enfin l'Occident de manière générale, pour ne plus avoir des pays qui pourraient vivre en autarcie, mais qui vont vivre dans l'interdépendance, puisque c'est la grande idée. Là aussi, j'essaie de tout lier, tout ce que vous aviez, quand vous aviez Chabanis tout à l'heure qui parlait de l'indépendance du peuple français. Et il leur arrive exactement la même chose. Hein. Ils ne sont plus libres, on se sert des minorités dans tous les pays d'Europe comme instrument, et il faut regarder un petit peu en amont, il faut regarder ce qui se fabrique tous les jours en Europe, c'est-à-dire à la Commission européenne, tous les décrets, toutes les lois qui paraissent. Et comment on instrumentalise les minorités?
C'est ça, l'intérêt de pourquoi, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi faire un reportage en Bulgarie?
Non, c'est un cas pratique extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est que la Bulgarie? Pour nous, la Bulgarie, c'est un pays qui fait 500 000 km², qui doit avoir 8 millions d'habitants.
Il ne reste que 7, parce qu'il y a 1 million qui est déjà parti à l'étranger, il faut manger.
C'est pas d'une importance considérable, mais c'est capital pour nous.
Géographiquement, oui, et puis pour nous, parce que ça permet de voir en accéléré ce qui se passe un peu partout en Europe, de manière générale.
Il y a une image que vous m'avez donnée en rentrant, qui est dans votre papier, que moi j'ai trouvé extraordinairement révélatrice et évocatrice. C'est le fait que les bancs de Sofia,
sont marqués d'une marque
Danone.
La marque,
autrement
dit,
la production dans l'imaginaire collectif, la Bulgarie, c'est le yaourt. Eh bien, maintenant, en Bulgarie, pays.
Non, c'est énorme, hein, c'est aussi
planétaire
gros que le panneau que vous avez derrière vous, que les auditeurs ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas le voir.
C'est Danone
écrit en caractère latin.
Ouais. En plus.
Ah oui, parce que le Cyrillique est petit à petit poussé parce qu'il gêne pour le commerce, puisqu'il s'agit de rendre tout facilement agençable, les choses les unes par rapport aux autres. Alors, vous avez entendu les voix bulgares tout à l'heure, le yaourt bulgare, les deux choses. Les voix bulgares sont parties, elles.
Ouais.
Parce que, formées en Bulgarie, elles ne trouvent pas de débouchés. Elles ne trouvent pas de débouchés parce que ce qui se vend en Bulgarie, c'est uniquement de la musique américaine.
Vous dites
de même que les films qui se vendent, ce sont uniquement les films américains.
Même plus les films russes.
Non.
Il
n'y
a plus que des films américains
de films
qui
russes,
vendent dans les vidéos.
Ils ont droit, un soir par semaine, le lundi, à un film bulgare, avec des gens qui viennent dans la tradition d'autrefois faire une autocritique du pays. C'est-à-dire, ils se repentent, eux aussi, de ce qu'ils ont vécu pendant quelques années dans le communisme, une cinquantaine ou une soixantaine d'années dans le communisme.
Et alors vous expliquez aussi
ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui sont en place, qui emploient les mêmes méthodes, mais avec des choses qui nous conviennent à nous, le flavor, le parfum, les petites choses en plus, qui nous permettent de trouver tout ça sympathique. Mais les gens ont tout aussi peur qu'auparavant. Ils sont chassés.
Oui, alors le régime de terreur communiste est devenu un régime de terreur libéral en quelque sorte.
Le libéral,
apparemment libéral, c'est le même système. Simplement avant, il fallait pas dire du mal de Staline, maintenant il faut pas dire du mal de quelqu'un d'autre.
Mais oui, parce
personnes.
Que vous avez quand même 20% des gens qui sont au chômage.
Ouais.
Vous avez 20% des gens qui sont au chômage, vous avez des nouveaux arrivants essentiellement turcs. Régulièrement. Il y a une minorité rome qui est très importante, qui pose aussi beaucoup de problèmes parce que ça ne se gère pas comme une population normale. Et
oui,
parce que la logique...
d'ailleurs que les Américains ont suscité la création d'un parti turc.
Le mouvement Droit et Liberté, présidé par Ahmet Doğan, qui joue apparemment dans l'équipe libérale, mais qui peut jouer éventuellement avec le Parti Socialiste Bulgare, l'ancien Parti Communiste Bulgare. Et il s'agit... C'est extrêmement important de connaître un peu l'histoire bulgare, de savoir quels sont ces 500 ans d'occupation turque, le joug turc, puisqu'il y a le livre le plus important de la littérature du 19e, c'est Sous le joug d'Ivan Vazov, qui raconte 500 ans d'oppression. Donc, il y a mille et une choses à dire qui sont essentielles d'un point de vue de civilisation, qui sont essentielles pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre comment on manipule les minorités, pour comprendre aussi qui confisque les richesses, au profit de qui. Parce qu'on peut confisquer les richesses au profit de quelqu'un d'autre. Par exemple, Balkaner a été prise par une société israélienne qui s'appelle Zevi. C'est-à-dire tous les avions, comme ceux d'Air France, ont été vendus avec les ingénieurs, 177 pilotes et ingénieurs, avec la tour de contrôle de Sofia pour faire bonne mesure, avec d'autres choses en plus. Pour
alors,
150 000 dollars.
Oui, 150 000 dollars, c'est vraiment pas très cher.
C'est pas très cher. Hein, c'est pas très cher.
Pour une société d'aviation, quand même... Même
ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne, tout ça. Ça ne nous gêne pas, nous, parce qu'on a une sorte de toute petite revanche à satisfaire. Et puis parce que c'est tellement beau de voir nos marques là-bas florissantes. Mais quand même, je trouve ça très déplaisant. Je trouve que ce ne sont pas des bannières. Moi, ça me fâche.
Alors, si vous voulez savoir, en gros, ce qui se passe en France, vu à travers une loupe...
C'est pas exactement ça, parce qu'il faut regarder chaque chose à sa place,
bien
si
sûr,
on peut dire,
mais
il y a vraiment un cousinage.
Voilà, c'est ça.
Il y a une menace, mais alors bien plus terrifiante pour eux, bien plus terrifiante, ça va en accélérer. Le problème qu'ils vont avoir dans pas longtemps, c'est savoir si, par exemple, maintenant, l'équipe libérale est en train de rater complètement. La corruption est partout, on le sait depuis le début, depuis 10 ans. Quand c'était les communistes, c'était la corruption. Quand ce sont les libéraux, c'est la corruption. Mais elle est beaucoup plus forte que chez nous, et c'est beaucoup plus gênant dans un pays où les gens ne mangent pas. Chez nous, on s'habitue à ce genre de choses, mais là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous ne savez pas comment vous allez tenir, que vous ne tenez que grâce aux produits de la campagne, parce que vous êtes de la famille, comme chez nous pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je veux dire. La question qui se pose pour les Bulgares, c'est simplement des questions de survie. Ce qui les guette, c'est l'éclatement de leur pays. Parce que il est très important pour les Américains d'avoir une sud de l'Europe totalement éclatée, de manière à ce que leur allié turc puisse tenir le reste de l'Asie centrale, et que les oléoducs, les routes et tout le reste puissent fonctionner. Je vous parlerai une fois prochaine, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de temps, du libre journal bulgare qui s'appelle L'Aube
Nouvelle.
Alors,
je voulais conclure là-dessus, d'ailleurs, en vous disant, vous avez été reçu là-bas par
Novazora,
qui s'appelle
ouais.
L'Aube Nouvelle, enfin, somptueusement, alors, mais aussi somptueusement qu'ils le peuvent, c'est-à-dire.
Oui, somptueusement.
Somptueuse, oui. Et ce petit journal évoque par certains.
Il y a des difficultés terribles. Il y a des difficultés terribles. Ce sont des chevaliers. Ce sont des gens qui pensent que c'est un honneur d'être à se battre dans ces difficultés pour quelque chose qui compte, c'est-à-dire que ce qui reste de leur pays, pour le maintenir face à des ouragans, des tornades, face à la corruption, face aux grandes sociétés. Il faut penser qu'un monsieur comme Soros, qui met sa marque dans tous les domaines de la société, qui achète aussi bien les costumes folkloriques locaux, qui achète la musique locale, qui achète l'argent de toute manière, c'est-à-dire qu'il confisque les banques, eh bien, il a entre ses mains deux, trois fois plus que le PNB de tout le pays. Donc il fait exactement ce qu'il veut. Et alors les gens de Nova Zora, vous avez des gens extraordinaires qui tiennent sans un franc, qui ne savent pas d'une semaine sur l'autre comment ils vont payer le journal. Le journal était tiré à 80 000 exemplaires au début, il est maintenant à 30 et quelques mille, ce qui est encore beaucoup. Mais les gens, petit à petit, sont emportés par les télévisions, qui sont les télévisions Murdoch. C'est la dernière qui est arrivée. Et puis toutes les autres télévisions qui ne passent que du sport, de la musique américaine, enfin toutes ces choses que...
Et à propos de musique, alors je crois que vous nous avez apporté quelque chose.
Ah ben oui, ça sera pour la conclusion.
On peut voir comment, ce qui est devenu la musique
populaire. On peut voir ce qui est devenu la musique, oui. Oui. Alors, c'est la musique contemporaine, voilà. Mais elle est contemporaine comme ça depuis 100 ans.
C'est ça, ça fait 100 ans qu'il nous emmerde avec ça. Et monsieur, moi je voudrais arriver à comprendre, parce que Soros c'est un mec qui fait du fric, enfin il aime faire du fric. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un type qui veut faire du fric et qui subventionne ce genre de truc? Moi je comprends
pas,
là, c'est un mystère
que j'ai vu, je vous en reparlerai une autre fois, et ils m'ont dit, c'est un peu comme les chiens, ils marquent leur territoire.
Ah oui, ben c'est assez réussi alors.
Ah, il est très marqué, le territoire.
Oui, très très marqué. Merci Michel, vous reviendrez. Oui.
Un auditeur vous demande si la Bulgarie est un pays agréable à visiter.
C'est un pays splendide. Et alors, une chose, c'est l'air le plus pur d'Europe. Dans le Rhodope, vous avez des paysages splendides. Il reste encore quelques joyaux. Il y a aussi tous les dégâts du communisme et les dégâts du libéralisme. On peut ignorer ça.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait énormément. Mais il reste des paysages. Et il y a des équipements hôteliers importants. Il faut savoir que les Allemands y vont en vacances. Ouais. Parce que qu'est-ce qui n'est pas en Europe une colonie allemande maintenant, ça paraît difficile à savoir.
On se demande pourquoi il y a 60 ans, ils ont essayé de faire ça avec des fusils, alors qu'ils auraient fait ça avec des paquets de marques.
Ils
beaucoup
sont
mieux
peut-être
réussi.
Pas si intelligents qu'on croit.
Non, bah des brobos comme ça, messieurs, attention.
Bon. Enfin voilà, non, mais c'est voilà. Un pays à visiter réellement. Il n'y a pas grand-chose.
Alors, il y a quand même l'imbécile de service qui téléphone parce que il y a tout. L'auditeur de Radio Courtoisie est très étendu. D'abord, il est étendu géographiquement. Mm-hmm. Maintenant, puisqu'on est entendu dans le monde entier. Puis il est aussi intellectuellement. Par exemple, vous avez un gars qui a tout compris à votre film. C'est gentil, merci monsieur. Que Michel Blanza aille reconstruire le mur de Berlin s'il regrette qu'il soit tombé. Voilà.
Alors, avez gagné. Ça demandera un long moment pour expliquer ça et puis pour décontaminer le bonhomme.
On va pas perdre de temps.
Mais heureusement, un autre auditeur.
Comme rien.
Un autre auditeur.
Il n'est pas mûr.
Très belle réflexion. Merci.
Un autre auditeur considère que Michel Blanza a dit la vérité sur tout ce qui se passe en Bulgarie. Et il souhaite vous joindre. Donc, je vous donne son numéro.
Merci. Tout, non, parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais bien sûr, je le joins et avec plaisir.
Mais encore une fois, le projet n'est pas de reconstruire le mur de Berlin. Le projet,
c'est le respect des peuples. Parce qu'on a besoin de ça pour que nous-mêmes, nous soyons quelque chose d'un peu intéressant. Si on ne se respecte pas soi-même, si on ne respecte pas les autres, c'est fini. Il n'y a plus qu'à être des consommateurs. C'est le sort qui nous est réservé.
Cette espèce de terrorisme du serbo-bolchevique. Bulgaro-communisme et tout, comment ça
m'emmerde sérieusement. Vous vous rendez compte, j'ai parlé à des communistes, des anciens communistes, et c'est des gens intelligents. J'ai parlé à des professeurs d'université, j'ai parlé à des journalistes, j'ai parlé à... Tenez, juste une toute dernière chose, j'ai parlé au patron de l'association des écrivains bulgares, Nicolas Haitov, un grand bonhomme, 80 et quelques années. Il me raconte une chose, son frère est mort d'une manière très curieuse. Il avait 2-3 ans de plus que lui. Il ne mangeait plus que du fromage parce que c'était la seule chose qu'il pouvait acheter. Et puis un jour, il a découvert que le prix a été multiplié par 10. Il ne pouvait pas. Il est rentré, il était tracassé. Dans la nuit, il est mort. Les vieillards en Bulgarie meurent de froid, de stress, de faim. C'est nous qui faisons ça. C'est pas d'autres personnes. Hein. C'est avec les violons, avec le football. Oh, le football aide beaucoup. J'ai jamais vu d'ailleurs un footballeur donner une journée de son salaire comme un pétrolier pour sauver tel ou tel peuple de la planète. Je ne demande pas que ce soit forcément les Bulgares. Mais enfin, des questions qui me posaient les uns ou les autres, c'est jusqu'à quand, Michel, ça peut aller?
Merci Michel, vous reviendrez nous parler de la Bulgarie, du modèle bulgare.
À suivre dans le Libre Journal aussi.
Émissions,
et vérifier, parce que si je dis des bêtises, après tout c'est possible.
Oui.
Mais je ne serai certainement pas le seul dans la presse, parce que vous apprenez très 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 peu de choses en bout de compte, après 10 ans de propagande sur la Yougoslavie. Que savez-vous sur les peuples yougoslaves?
Bonne question, merci.
Bonsoir sur Radio Courtoisie, tout de suite et en direct la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech, il est tout juste 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet TV. tradeunionradio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 mai 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 11 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82. We'll be right back.
Alors, une auditrice me demande de redonner lentement l'adresse internet. La voici. TV. Tout ça se fait en petites lettres. TV-radio.com.
Non, pas point.
Ah,
pas
le point. Point, c'est le point de la
Il
n'y
a jamais de point après comme.
Ah, bah, excusez-moi.
Ah, bah, non, mais ça.
Je ne suis pas une internaute.
Pour ça, un vieux principe, il y a pratiquement de plus l'existence, les premiers balbutiements de l'internet.
Mais moi, je n'ai pas balbutié avec l'internet, je n'ai pas l'internet. Je suis un vieux clou qui ne supporte pas l'internet, il est comme moi.
J'ai même jamais voulu se servir d'un stylo à réserve.
Bon, je vous dis maintenant que tout à l'heure on a eu un message d'une dame qui nous disait que dans Lyon, elle avait une amie dont le prénom était Adéodate.
Très joli ça.
Qui est un très joli prénom. Il est dans le livre de Monsieur Pedrazzani. Alors la fête c'est le 8 novembre et il s'agit d'un moine qui était né à San Remo en 654. Bon, je vous fais toutes les annonces pour qu'on pédale.
D'abord, j'ai un message personnel, c'est que le professeur Shakti adresse son salut amical à Rémi le taxi. Voilà. C'est un message secret. Prépare la révolution.
Message secret. Voilà. Alors, la Confédération catholique de France annonce la conférence de Jean-Yves Rouxel, maître de conférence des facultés de droit, sur le Saint-Siège et la politique européenne. Cette conférence se tiendra dans les salons de l'hôtel de Mayenne le jeudi 11 mai à 20h au foyer des Francs-Bourgeois, 21 rue Sainte-Anne, dans le 4e, métro Saint-Paul ou Bastille. Entrée libre. Au Café Métaphysique, le vendredi 12 mai, au premier étage du café de la à 20h, pardon, au premier étage du café de la mairie, 8 place Saint-Sulpice, Paris 6e, conférence sur le thème l'enseignement spirituel des pères grecs de l'Église par Christophe Levallois et la déification de l'homme chez les pères grecs par le père Yves Dulac, directeur des études de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Denis. La Maison Roumaine annonce la conférence de M. Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS, coordinateur et co-auteur du remarquable ouvrage Le Livre Noir du Communisme, le samedi 13 mai à 17h, 64 rue Théophile Gautier, métro Église d'Auteuil, salle des conférences de l'Église d'Auteuil, sur déni de justice, comment interpréter, comment comprendre la discrétion qui règne toujours en dépit de la scrupuleuse conscience universelle autour de la tragédie de dimension planétaire qui a résulté du coup d'état bolchevique de 1917. La Maison Notre-Dame de Fatima propose des retraites spirituelles, exercices spirituels donnés par les coopérateurs paroissiaux du Christ Roi, pour les hommes, jeunes gens, prêtres, religieux, séminaristes, du lundi 15 mai 12h30 au samedi 20 mai 15h et du mardi 30 mai 18h au dimanche 4 juin 18h30. Renseignements et inscriptions à la Maison Notre-Dame de Fatima, Billezy, Lanvaux, 56 330, Plouvigné. Le samedi 20 mai à... illisible, à 14h, pardon. Réunion annuelle de l'ANPV au Centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, Paris 8e, métro Georges V. ANPV, c'est l'Association Nationale Pétain-Verdun, bien entendu. Alors, le samedi 20 mai à 12h30, au restaurant La Perdrix Rouge, premier étage, 5 rue Lassus dans le 19e, métro Jourdain, à l'occasion déjeuner-débat avec Martin Pelletier, rédacteur en chef de Quotidien de France Com. Vous pouvez vous inscrire au 01 56 56 64 34. Le prix, c'est 100 francs. Au Café Philo de droite, animé par Jean-Pierre Pagès Chouette, j'y arriverai pas, Chouette-Serre, c'est dur, hein. Le dernier jeudi de chaque mois, il y a une conférence de 19h à 23h. Alors cette fois-ci, conférence le jeudi 25 mai à 19h de Michel Leroy, universitaire, écrivain, et d'Alain Pascal, écrivain, journaliste, sur le complot maçonnique, délire, mythe ou réalité. Adresse, le Galvet, 13 quai des Grands Augustins, Paris 6e. Événement à la librairie Murat, 122 boulevard Murat, Paris 16e. Monsieur Michel Thauriac dédicacera son ouvrage La nuit du tête, roman édition Plomb, le jeudi 25 mai de 17h30 à 19h30. Et pour le mois de mai, c'est le mois de Marie, pour réaliser la chaîne de prières ininterrompue qu'elle organise chaque année, la Croisade du Rosaire invite tous ceux qui le veulent à méditer le chapelet pendant une demi-heure ou plus au cours du mois de mai, devant le Très-Saint Sacrement ou chez soi, pour que se réalisent les demandes de la Très-Sainte Vierge en 1917 à Fatima. Les personnes désireuses de participer à cette action peuvent s'inscrire en téléphonant au 01 45 76 36 22. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces adresses, vous pouvez téléphoner au secrétariat qui les aura et qui vous redonnera les noms et les numéros. Voilà.
C'est bien. C'est très très bien, ma petite Victoria. Vous êtes brillante. Cécilia, vous avez la parole.
Mais
on va d'abord écouter votre...
Oui, très volontiers, mais très peu,
générique.
Parce que je crois que vous êtes en train de me rabioter là un petit peu de temps, et vis-à-vis de mon invité, je suis un petit peu...
Non, allons-y.
Non, mais vous m'avez dit jusqu'à...
Sur les gens méchants. Mon colonel, si vous voulez donner la peine d'entrer... Ça, c'est un autre genre de rap. Hein? C'est vrai, ça fait bouger cette musique, mais d'une façon au rapport. Voilà.
Rapport.
Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
On en est à donner les titres. Alors, on va
bonsoir,
s'en priver. Le colonel Moinet, le docteur Philippe Ploncard d'Assac, mais qui n'est pas là pour une consultation, qui est là pour parler d'un...
On ne donne pas de consultation par téléphone.
Pas de consultation par téléphone ni par radio. Mais par Internet, ça commence, paraît-il. Alors, les deux sujets que nous allons évoquer sont au moins parallèles, et en tout cas, sinon parallèles, du moins sérieusement intriqués, puisque nous allons parler de la nation et de l'armée, et que l'une n'est pas grand-chose sans l'autre. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez, mon bon ami? Prenez ce que vous voulez, mais laissez-moi travailler tranquillement. Voilà. Donc, la première question... qui se pose la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, colonel Moinet, c'est je voudrais vous demander, après avoir lu votre livre « À genoux les hommes » qui est consacré à Saint-Cyr, je voudrais qu'on essaye de voir ensemble, si vous voulez, ce que peut être l'état d'esprit d'un soldat aujourd'hui, d'un soldat qui a fait sa carrière, qui est un officier supérieur, disons, de 70 ans, donc qui est entré dans l'armée, on peut imaginer, à la fin des années 40, qui a fait Saint-Cyr, et qui considère ce qu'il a vu se dérouler sous ses yeux pendant les 50 années de sa carrière. Il est entré dans l'armée à Saint-Cyr, après la guerre, souvent... dans l'espoir de participer au redressement du pays, en se disant il faut quand même laver ce pays de l'humiliation de la défaite, et puis moi je dirais aussi de ce qui s'est passé après la libération, qui n'était pas forcément très enthousiasmant pour l'armée française, et puis ça a commencé tout de suite avec les guerres de l'Empire, puis ensuite avec l'Algérie, et puis ensuite on a vu l'armée accepter le pouvoir communiste avec Mitterrand, la trahison gaulliste bien sûr, mais c'était pas la première, le pouvoir communiste avec Mitterrand, maintenant le bradage de l'armée par le pouvoir chiraco-libéral et en plus son implication dans des opérations qui ne sont pas à l'honneur de notre pays, comme le matraquage de la Serbie. Alors la première question, c'est est-ce que vous avez l'impression que le bilan de tout ça est encore un bilan positif ? Est-ce qu'on peut encore avoir du respect, de l'estime et de l'admiration pour l'armée française ?
Vous savez, dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et au fond, après un siècle qui se ferme, nous avons assisté à la trahison permanente de l'armée française par ses gouvernements. C'est clair.
Ça commence très tôt.
Ça commence
même bien avant que
l'armée,
bien
oui.
avant 40, puisque on oui. peut considérer que l'affaire des fiches, par exemple, d'une certaine manière, c'est une forme de trahison de l'armée française par les gouvernements maçonniques.
Absolument.
Bon, ensuite, Absolument. On se retrouve avec le gouvernement de Front Populaire,
oui.
qui, pour ce que j'en sais, semble avoir quand même une responsabilité moins établie qu'on le dit dans la défaite, parce que.
Ah si.
Oui, enfin, si on regarde les chiffres du budget de l'armée. On ne peut pas accuser le Front Populaire d'avoir volontairement réduit le budget de l'armée pour
non,
la rendre...
on peut l'accuser d'avoir simplement d'avoir expliqué trahi, au peuple français oui. qu'il n'y aurait pas
c'est
de guerre,
comme disait
M. Blum.
De... Puisque... Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est
non, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une mentalité nationale semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui, car nous sommes en 36.
C'est ça, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est pas véritablement, c'est pas directement quelque chose qui était contre l'armée en guerre, ou sur le point d'être en guerre, c'était plutôt contre l'âme du pays. Et là, on entre dans le vif du sujet, d'ailleurs, parce que on voit bien que l'attitude du Front Populaire a été une attitude qui a été dirigée, enfin une violence qui a été faite à l'âme même du pays, et que cette violence s'est manifestée premièrement par la défaite en rase campagne de la première armée du monde, qui était l'armée française à l'époque, et qui a été balayée par l'armée allemande, malgré une résistance héroïque. Donc c'est pas les soldats...
De certains.
Donc c'est pas les soldats qui sont en cause. C'est vraiment là le résultat d'une politique de désarmement des esprits.
Oui.
Qui aboutit à ça. Et on est en permanence.
Non, c'est le résultat aussi d'actions externes. Enfin bon, je crois que pour bien voir la question, il faut démarrer en 1905. En 1905, pourquoi ? Parce qu'il y a trois événements capitaux et l'année 1905 est très importante historiquement. En France, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est pas rien, ça. Or, aujourd'hui, en Europe, la France est le seul État qui porte cette marque-là. Le seul. De tous. Nous sommes le seul État en Europe qui reconnaît froidement, pratiquement et officiellement la séparation de l'Église et de l'État, ce qui n'existe dans aucun pays européen. Nous sommes aussi, et tout se tient, le seul pays d'Europe dans lequel, dans les écoles duquel, on n'aborde jamais, et sur ordre, l'affaire, la formation intellectuelle des enfants, en faisant la moindre allusion aux forces surnaturelles, à la religion.
C'est... Et moi, il en parle ça l'éducation nationale, d'ailleurs.
Et à l'âme. Et à l'âme.
Et vous y voyez un lien. Vous voyez un lien entre la laïcité et l'abaissement de l'armée.
Absolument. Absolument. Deuxième date importante, j'en ai traité qu'une, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça sera gardé la France. Deuxième date importante, première révolution bolchevique 1905, elle échoue. Elle réussira 12 ans plus tard. Mais elle est à marquer d'un caillou rouge, car c'est elle qui va entraîner 75 ans d'histoire derrière elle. Troisième événement important, la flotte du tsar est envoyée par le fond par les Japonais. C'est la première victoire de l'Asie contre l'Europe. La seconde sera dit de mieux de vous. 1905 est une date capitale, qu'évidemment on n'aborde pas, bien sûr, comme il se doit. Alors tout ça va entraîner le reste. Tout ça va entraîner la décomposition interne de la formation même de nos jeunes, de notre jeunesse, ça va entraîner petit à petit, année après année, décennie après décennie, la décomposition de l'Église française et de l'esprit des évêques français. Ça va entraîner... Et tout se tient. Le lien qui existait très fort entre le sabre et le goupillon, tout au long de notre histoire, depuis Clovis et Saint-Rémy, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et c'était, pendant des siècles de royauté, comme ça. J'ai déjà lu ici quel était le règlement de la troupe quand le Saint-Sacrement passait dans les casernements. Faut relire ça. Et c'était valable jusqu'en 89.
Mais c'est dans l'écriture, de toute façon, puisque quand le centurion pose la question au Christ de la validité de son engagement,
alors on raie tout ça d'un trait, qu'il fasse sa mission. On raie tout ça d'un trait rouge, bien sûr, mais on le raie. Bon. Et petit à petit, on va voir, en même temps que se décompose l'Église, petit à petit, on va voir le nombre de prêtres décroître, et puis on va plus voir de prêtres, et on va plus voir, on va voir le nombre de soldats décroître, on va voir le nombre d'officiers décroître, et on ne va plus voir d'officiers, on ne voit plus, on ne voit plus de prêtres, mais tout se tient.
Vous faisiez hors micro, on en parlait tout à l'heure, faisiez une remarque qui est extrêmement originale, je veux dire, et très frappante. C'est à propos de la façon dont on a déshabillé l'Église.
On déshabille. On a déshabillé cette armée, moralement, on l'a écœuré sur le terrain politiquement, on l'a envoyé au combat pour la trahir dans le dos systématiquement. Je n'évoque pas ici, bien sûr, 14-18, qui était la marque de nos derniers héros et de notre dernière grande armée, victorieuse, elle, et non pas se disant victorieuse, véritablement victorieuse. Effectivement aussi la première armée du monde à l'époque. Et à l'époque où la France était le deuxième pays du monde après l'Angleterre. Nous sommes aujourd'hui le huitième. Alors un pays à l'armée qu'il mérite.
En termes militaires, je crois qu'on peut imaginer que...
Et l'armée a suivi
cette descente.
Absolument. Absolument. L'armée a suivi cette descente. Alors vous me disiez, mais comment expliquer cela? Oui, vous avez évoqué ce que j'appelle le déshabillage de l'armée. C'est même sur le plan pratique étonnant. Regardez la tenue des officiers. On a commencé par retirer le baudrier. Le baudrier, c'était une bande de cuir qui soutenait le ceinturon, tout simplement pour soutenir le port du pistolet. Bien. On a supprimé le baudrier. Un beau jour, on a décidé, ça n'a aucune importance. Si. C'était le début. Ayant supprimé le baudrier, on a supprimé le ceinturon. Certains disent, en souriant, que c'est à la demande du général de Gaulle qu'il portait mal.
On l'aurait payé avec un balai, j'avais eu l'air de ce qu'il
alors,
était.
Alors, il est évident que là, on retirait une marque militaire essentielle, le ceinturon. On a ensuite retiré la bande de commandement des pantalons des officiers, qui distinguait les officiers des sous-officiers. Il n'y a plus de bande de commandement.
Mais là, c'est pourquoi? Parce que de Gaulle le portait mal ou...
Ça, c'est après de Gaulle.
Giscard avait l'air...
Ça, c'est juste après de Gaulle. Oui, on amorce une étape suivante.
Pompidou voulait pas de bande de pantalon.
Non, puis il connaissait pas, lui. On a ensuite retiré l'épaulette. On met un passant. J'ai connu les passants dans la Légion, parce que quand les jeunes arrivent dans la Légion, on leur met un passant vert, puis on les chahute un peu, on les fait crapahuter avec ça, ils ont un passant provisoire. Nos colonels ont un passant définitif. Il n'y a plus d'épaulettes, donc il n'y a plus de galette. La galette de Saint-Cyr a sauté. Ouais. Et ainsi, petit à petit, on a limé, si vous voulez, l'aspect des officiers, en s'efforçant d'ailleurs depuis 1960 de ne plus les montrer et en leur interdisant pratiquement de sortir en tenue.
J'ai remarqué que c'est exactement dans la même période et de la même manière qu'on a, vous faisiez allusion à l'alliance du sabre et du goupillon, qu'on a banalisé les prêtres en supprimant la barrette et puis oui. et puis la ceinture et puis le bavoir et puis la soutane, finalement la soutane à 33 boutons, puis la soutane totalement, et puis maintenant le clergyman. C'est-à-dire que maintenant, tout à l'heure j'avais un officier d'armée de terre qui était dans nos locaux et qui venait me dire bonjour et qui me disait je passerai vous voir dimanche à la fête du livre de Radio Courtoisie. Et je lui dis bah, faites-moi plaisir, venez en tenue numéro 1. Il me dit vous plaisantez, c'est radicalement interdit.
Voilà.
Donc maintenant on les oblige, et là il était en uniforme parce qu'il sortait du boulot si j'ose dire, mais dans les lieux publics on déconseille aux officiers de se mettre en uniforme, et je signale que l'évêché interdit à l'heure actuelle aux prêtres parisiens de porter la soutane, et même le clergyman, c'est très 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 mal vu.
Voilà.
S'ils résistent, on les laisse faire, mais on n'aime pas du tout ça.
Voilà. Alors ça, c'est l'aspect pratique, l'aspect général des choses, bon, de la tenue. Alors il y a tout le reste. J'ai connu, je ne parle pas de la grande armée de 14-18, si vous voulez bien maintenant, après nous être inclinés devant elle, nous ne la traiterons plus, elle, et nous allons descendre vers le torpillage de 1936. Comment voulez-vous que ce gouvernement puisse préparer une guerre qui tienne, puisque vous le savez bien, en 1939, le Parti communiste allié au KGB et à l'URSS était allié d'Allemagne. Clair.
Oui, bien sûr.
Bon, ils l'ont été pendant jusqu'au moment où les Allemands ont attaqué les Russes. Comment voulez-vous que le gouvernement Blum ait une armée charpentée moralement et sur le plan de l'esprit, enfin, car ceci est essentiel, le reste n'est que de l'apparat. L'essentiel, c'est le cœur et l'esprit dans une armée. Et l'essentiel, ce ne sont pas les généraux, c'est l'homme de troupe. Et aussi, l'armature extraordinaire que peut avoir une armée avec ses sous-officiers. Ce qui distingue les armées, ce n'est pas du tout les officiers, ils sont tous du même niveau dans le monde entier. C'est le corps de sous-officiers qu'on a dédaigné complètement dans les années 36-38, bien sûr. On a aussi eu à la tête de l'armée de l'air, à la tête de l'aviation française, un certain Pierre Cotte, qui était un agent.
Qui était un agent soviétique.
Aujourd'hui, nous avons là-dessus tous les renseignements, oui, les documents sûr, et tout ça. Agent reconnu officiel du KGB.
Oui, tout à fait. C'est
qui avait, comme chef de cabinet d'ailleurs, un certain Jean Moulin.
Qui était un agent du KGB,
absolument.
Qui était un agent soviétique. Jean Moulin, il faut le dire, était un agent soviétique. Les preuves en sont surabondantes. Je l'ai écrit plusieurs fois dans mon libre journal. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai écrit d'après les travaux de plusieurs historiens, dont M. Benfred, Volton, etc. Il est parfaitement clair que
oui,
Jean Moulin était un agent soviétique.
Voilà.
Cotte était agent soviétique.
Belle ambiance.
Et donc le noyau, à l'époque, le ministère de l'air, était un noyau d'agents soviétiques. C'est quand même extraordinaire.
Voilà.
D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait le réseau ministère de l'air.
Toujours au cœur de ce Front populaire, nous avions bien sûr Maurice Thorez, dont on sait qu'il a, il a mené la guerre pour les Allemands, avec les Allemands pendant un an, avant de rejoindre, au moment de Barbarossa, il a rejoint Moscou, où il a fait sa...
Très, très déserteur, c'est quand même beaucoup.
Oui, absolument déserteur.
Il a trahi avant de déserter.
Puis
général,
à son
les gens
retour,
désertent d'abord.
Voilà. Puis à son retour, décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bon. Tout ça est logique.
Tout ça se tient très bien. Tout ça se tient très bien. Donc c'est la catastrophe de 40.
Ça s'appelle la connivence des crapules.
Tout ça nous mène au drame de 1940, car c'est à ce moment-là que les hommes meurent. Messieurs les politiques.
Oui, mais alors comment expliquez-vous que les officiers, parce que... Votre livre, c'est un livre qui raconte, en réalité, la vie de plusieurs générations d'officiers.
Mais surtout d'une génération.
D'une génération, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la vie de cette génération, elle est totalement imprégnée, elle est dirigée en quelque sorte par la vie de la génération précédente.
Imbriquée complètement.
Et voilà, et elle va inspirer complètement la vie de la génération suivante. C'est ça qui m'intrigue énormément.
C'est vrai.
Comment c'est possible? Vous comprenez que des hommes qui ont été pendant des années et des années témoins de la trahison qui a détruit leur grand-père, leur père, qui les a détruits eux-mêmes, ceux qui sont en quelque sorte heureux, parce que votre héros, quand son fils vient lui annoncer à la fin qu'il rentre à Saint-Cyr,
oui.
On sent qu'il éprouve une espèce de bonheur immense.
Absolument, ça c'est certain.
Oui, mais enfin, c'est aberrant, parce qu'il est cocu de père en fils depuis 5 générations, et ouais. Il dit, tiens, mais je suis content, mon fils va être aussi cocu que moi. Alors voilà, bravo, ça fait 100 ans qu'on nous trahit, et ben il va reprendre pour
Et ben il y a des générations cocues, il y a des générations qui ne le sont pas.
Oui, mais enfin...
Et je suis persuadé que les jeunes actuellement, qui montent là, que nous connaissons bien, que nous allons voir dans les écoles, un peu partout, donc quand je dis dans les écoles, c'est pas seulement dans les écoles militaires, c'est aussi dans les universités, c'est aussi à la sortie des lycées, nous y voyons beaucoup. Cette génération-là n'est plus la même.
Mais pourquoi Dieu il rentre dans l'armée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un garçon de 20 ans dit à son père, papa, j'ai décidé de faire Saint-Cyr? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 20 ans?
Il se passe ce qu'on appelle la vocation.
Mais pourquoi? Je comprends. Mais, la vocation en 1880, je comprends qu'on ait la vocation. Les oui. uniformes étaient magnifiques. On était à cheval. On avait des casques superbes. On avait des sabres. Les filles vous regardaient. On était beaux. On allait se battre. On chargeait à cheval et tout. Bon. Déjà en 14-18, en 18, un gars qui gardait la vocation, quand même, c'était une espèce de héros parce que il avait vu ce que c'était la guerre. Puis pas la guerre en dentelle. Là, c'était vraiment la guerre dans la boue, les rats, la famine, la vermine. Et tout. Eh bien, il s'engage quand même. Après 40, qu'un jeune homme comme vous étiez, vous,
oui.
Ait encore la volonté de rentrer à Saint-Cyr, je peux le comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a une espèce de vengeance contre la fatalité, contre l'humiliation. C'est pas possible.
Contre l'occupation, c'est ça.
Et puis contre l'occupation, et puis oui. contre toute cette ordure qui s'est passée pendant ce temps-là. Oui. On dit, c'est pas possible, il faut redresser le pays. Une fois de plus, d'ailleurs. Et puis là-dessus arrive la grande Zoa, cette crapule immonde qui fout tout en l'air, qui va trahir l'armée, qui va détruire l'armée française. Et qui va, alors, littéralement massacrer les officiers de valeur dans ce pays, en les envoyant en prison, en les déshonorant, en salissant leur nom. Et ces gars-là, ils ont leur fils qui arrive et qui dit, je vais faire cire. Et le papa dit, c'est bien. Là-dessus, il leur arrive encore tout ce qui est arrivé depuis, 68, etc. Et quand maintenant leurs fils disent, papa, j'entre à cire, le gars dit, c'est bien. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ça.
Mais il faut comprendre.
Je suis d'une famille de militaires, je vous garantis que moi, j'ai arrêté. J'ai dit, la plaisanterie a assez duré maintenant. Il y en a marre de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine.
Non, mais.
Donc, on va se battre autrement.
Qui en vaut la peine? La France en vaut la peine.
Ah oui, mais.
Ces gens-là
ne se battent pas pour
en dehors de la pourriture politique dans laquelle nous sommes plongés depuis 50 ans.
Ces officiers, oui. C'est ça que je veux dire, c'est que oui. ces gens-là ne se battent pas pour la France. Les gars qui se sont battus, par exemple, en Serbie, qui sont allés bombarder la Serbie, ils ne sont pas battus pour la France. La France n'est pas menacée par la Serbie. On n'avait aucun contentieux avec la Serbie. En quoi ça a servi l'honneur des armes françaises d'aller bombarder le peuple serbe? On s'est battu pour des ordures de politiciens véreux, corrompus, à plat ventre devant le pouvoir mondialiste, internationaliste et apatride.
Vous avez été en Serbie? Vous leur avez parlé?
Oui, bien sûr. Bon. Ils ne sont pas fiers du tout.
Non. Mais ils disent ce que vous dites.
Mais il ne fallait pas le faire. Il y a un devoir de refus. On l'accorde à tout le monde, le devoir de refus aujourd'hui. Sauf aux médecins qui refusent les avortements et aux militaires qui refusent d'aller casser la gueule à des innocents. Mais il fallait dire non, l'armée française. Moi, je me suis pas engagé dans l'armée française pour faire ça. Je préfère démissionner.
Ah, c'est possible de démissionner, mais c'est rare. J'en sais quelque chose.
Ben oui, bien sûr.
Eh oui.
C'est pour ça aussi que je vous le dis.
C'est
parce
rare.
Que vous avez.
Maintenant, il y a l'autre aspect des choses. Bon. J'ai démissionné, moi, simplement parce que mes partisans en Thaï d'Indochine avaient été assassinés après notre départ et parce que tous mes harkis avaient été pendus et brûlés au pétrole après notre départ. Donc, pour moi, c'était clair, voilà, je démissionne.
Ça aussi, ça fait partie. Oui. Parce qu'on peut dire aux jeunes officiers d'aujourd'hui, c'est ça qui vous attend. Un bon jour, on va vous envoyer sur un terrain, que ce soit, je sais pas où, au Tchad ou en Sierra Leone ou n'importe où, pour vous battre pour des guerres dans lesquelles vous n'avez rien à foutre. On va vous donner des supplétifs locaux qui vont vous faire confiance, que vous allez aimer. Et puis, au bout de 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois, on va vous dire, bon, fini, fin de mission, vous rentrez. Et puis, les gars, ils peuvent crever maintenant.
Eh bien, les jeunes officiers d'aujourd'hui voient plus loin. D'abord, ils connaissent les menaces que nous cachent tous les médias. Les menaces sont claires. Nous avons à faire face. On ne va pas faire de baratin et de discours à n'en plus finir. Les menaces sont claires. Nous avons devant nous 2,5 milliards d'hommes et de femmes fanatisés qui n'ont qu'un but, envahir et occuper l'Europe. Ça, c'est clair. je dis musulmans plus Chine.
Oui, mais est-ce que les
qui sont
est-ce
alliés.
Que les soldats français le savent aujourd'hui, ça, vous croyez? Ils ont
non,
une formation.
On ne leur dit pas. Certains le leur disent.
Ben oui, mais.
Ben, je peux vous dire qu'ils le savent. Et de toute façon, qu'ils le sentent. Et c'est pour ça qu'ils sont officiers. Ils savent très bien que la période actuelle est dramatique pour eux. Ils savent parfaitement. Mais ils savent aussi qu'il y aura demain.
Vrai,
et que le choc va être terrible.
Oui, mais ce que je voudrais vous dire encore.
Or, l'ultime recours, c'est l'armée. Il n'y en a pas deux.
Oui, mais alors voilà. C'est ça que je veux dire. Je sais que tout ce que je viens de dire depuis le début de notre entretien, ça peut passer pour de l'hostilité à l'égard de l'armée ou à l'égard des officiers. C'est pas du tout, c'est exactement le contraire. Moi, j'ai un grand respect d'une famille de militaires, d'officiers, d'officiers supérieurs et de sous-officiers aussi d'ailleurs. Et j'ai un grand respect pour les gens qui acceptent d'engager leur vie pour défendre leur pays ou pour servir les intérêts de leur pays.
Bien sûr.
Leur vie physique. Avec le risque d'être tué. Mais aujourd'hui, j'ai de dire que les jeunes officiers, ils sont presque, donc presque plus de mérite à travers ce que je vous disais tout à l'heure, parce que tout le caractère d'apparat, tout le caractère de jeu guerrier, tout ça a totalement disparu. Maintenant, on vous dit les officiers sont des techniciens, ils servent des machines qui sont des machines informatisées, etc. Donc, les uniformes sont devenus pratiquement des costumes trois pièces. Et donc, il n'y a plus de raison de rentrer dans l'armée pour des motifs un peu puérils qu'on pouvait avoir il y a un siècle. Mais en même temps, on leur dit, on leur démontre qu'ils ne seront pas au service de la nation et qu'ils seront au service d'intérêts politiques qui ne sont même pas des intérêts politiques nationaux, qui sont en train de devenir des intérêts politiques internationaux. Et ces gars-là, malgré tout, au nom d'une idée, alors ça, on est dans le raspail, là, vous comprenez ?
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils agissent en fonction d'une idée qu'ils se font, d'un idéal qui est un idéal purement virtuel, qui relève de l'imagination, de la belle rêverie, de la...
Ah, pas du tout.
Alors
pas du tout. Ils agissent en fonction d'une situation du monde qu'ils voient, qu'ils connaissent. Ils savent ouvrir un atlas de 1939 et un atlas de l'an 2000.
Oui, mais ils connaissent la situation. Mais pardon de vous couper encore une fois, mais ils voient bien que ils voient très bien que les responsables politiques, les chefs politiques de l'armée, le président de la République, leur ment, puisqu'on leur dit vous vous engagez pour défendre la patrie. Et vous, nous dites-vous, ce que savent les gens qui étudient ces questions, qui ont fait de la géostratégie, le danger, c'est évidemment le danger des masses du tiers-monde fanatisées, et en général fanatisées par un islam délirant.
Et bien armé par nous.
Et bien armé par nous, parce que ça rapporte de l'argent. Bon. Donc ces gars-là, on leur dit pas qu'il y a le danger, mais ils le voient. Mais ce qu'on leur dit, au contraire, à longueur de journée, vous n'avez qu'à allumer la télévision, la radio, ou écouter les discours du hanneton de l'Elysée ou du Goitreux de Matignon, hein, on leur dit, mais attention, l'islam n'est pas un danger, il y a un islam parfait. L'islam, c'est la religion de la tolérance. Et d'ailleurs, on va faire un islam républicain en France, vous allez voir. Ces crétins, ou c'est des abrutis parce qu'ils croient que c'est possible, ou sont des canailles parce qu'ils savent très bien que c'est impossible et qu'ils sont en train de mentir.
Non, les officiers
qui voient ça, ils disent, on va être obligé d'obéir à ces gens-là.
Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre le problème. Les vocations, il y a trois vocations en fait pour un homme, pour un jeune homme qui cherche sa voie. S'il veut servir vraiment, il y a trois vocations qui toutes trois se rattachent à la mort. La première vocation, c'est la vocation religieuse où le prêtre accompagne jusqu'à ce moment-là et prépare à ce moment-là. La deuxième vocation, c'est le docteur, c'est le toubib, qui lutte contre la mort, qui aide à lutter physiquement contre la mort et à la vaincre. La troisième vocation, c'est celle de l'officier, qui doit protéger ses hommes de la mort et l'infliger à l'ennemi. Et ça, c'est une mission extraordinaire.
C'est une très belle... Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est une très belle vision des choses.
Et les garçons de 20 ans, 22 ans, qui sont à Saint-Cyr ou à l'EMIA en ce moment, ou à Saint-Mexant pour les sous-officiers, et qui sont quand même quelques milliers, ont en eux cette vocation de protection de la nation, de protection des Français. Et si aujourd'hui, ils savent parfaitement tout ce que vous me dites par les masses médias.
Bah oui, ils sont...
Mais ils savent aussi regarder les masses médias. Et ils regardent beaucoup les masses médias de l'étranger. Ils regardent beaucoup la chaîne européenne, par exemple, les nouvelles Euronews, etc., où ils voient un peu ce qui se passe dans le monde. Ils savent qu'on se bat partout dans le monde, partout en Afrique, partout en Asie, partout en Amérique latine. Ils savent que nous sommes en guerre. Ils savent que nous sommes envahis. Quand ils partent en permission, ils les voient, les jeunes. Ils les voient. Ils savent qu'ils passent comme ils veulent dans un tamis qui n'en est pas un. Grâce à l'installation de la nouvelle Europe sans frontières. Ils savent que nous sommes... Ils savent qu'il y a 800 000 Turcs à Berlin, que Berlin est la capitale européenne du djihad, que Londres est la capitale mondiale du djihad, que Lyon est la capitale française du djihad. Mais ils savent tout ça, parce que ce sont de jeunes officiers, et qu'ils cherchent, et qu'ils recherchent, et qu'ils savent que demain, ces masses mondiales vont nous tomber dessus, avec des moyens énormes, nucléaires, bactériologiques, gaz de combat, révolution interne, soulèvement des populations arrivées chez nous en masse. Et elles vont continuer d'arriver en masse. Et nous le savons bien, l'ONU vient de nous le dire. 150 millions d'immigrés avant 2010 en Europe. 150 millions. Ils savent tout ça. Ils refusent tout ça. Et ils savent que quand le combat va claquer, ils doivent être là. Parce que c'est à ce moment-là que le peuple de France, que le peuple d'Europe, les peuples d'Europe vont réaliser la honteuse trahison qui leur fut imposée pendant des années d'une fausse Europe, d'une Europe non armée, d'une Europe déshabillée, d'une Europe sans moyens. Quand vous voyez les Belges avec 70 000 hommes, quand vous voyez le Luxembourg avec un régiment de 1500 types, quand vous voyez la Hollande avec 30 000 hommes, quand vous voyez la France qui va arriver à 145 000 hommes, alors que quand je suis rentré dans l'armée, il y avait 1 200 000 hommes dans l'armée française, que nous étions en Indo, que nous étions dans toute l'Afrique du Nord, que nous étions dans toute l'Afrique noire, que nous étions dans toute l'Europe dans le cadre de l'OTAN avec les troupes de l'OTAN, et considérablement armées. Mais ils savent tout ça. Ils y pensent et ils s'y préparent. Voilà.
Alors, jusqu'à présent, Philippe Plancard-Assac, qui est à côté de nous, a gardé un silence, en général plutôt approbateur, j'ai cru remarquer. Quelle réflexion vous inspire les propos du colonel Moinet?
Bon, là, je vais, disons, intervenir, évidemment, en tant que civil. Mais en tant que civil, ayant tout de même réfléchi aussi à ce problème de l'engagement du militaire lorsque sa patrie, sa nation est agressée non pas par ses frontières, mais par une idéologie qui détruit l'idée de la nation de l'intérieur. Et là, je voudrais reprendre une citation que je donne dans mon livre « Le nationalisme français » qui est de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, pour la petite histoire, a eu, comme beaucoup d'hommes de son époque, la tentation maçonnique. Mais homme intelligent, intègre, il en est sorti et il a très bien compris où allait mener ses idées-là. Et il a fait une réflexion qui me semble absolument fondamentale et qui rejoint les propos du colonel Moinet. Voilà ce que disait Joseph de Maistre. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par la conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu'elle est? Alors là, ça rejoint tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nos politiques détruisent chez les Français la notion et l'amour de la nation et l'infiltrent progressivement par des masses qui viennent d'ailleurs. Donc, vont modifier la composition du peuple français qui va à leur tour modifier le comportement électoral, puisqu'il va y avoir une modification proportionnelle raciale, et que de ce fait, le vote des Français deviendra progressivement minoritaire. Alors, réponse à ceci. Eh bien, je la donne aussi dans mon livre « Nationalisme français », c'est de José Antonio Primo de Rivera, qui a été le grand doctrinaire du nationalisme espagnol, qui a été le point de départ de la reconquête de Franco, la reconquête nationaliste face au marxisme et au libéralisme marxiste qui avait infesté l'Espagne. Voilà ce que disait José Antonio quant au rôle de l'armée, et il connaissait le problème car son père avait été général, appelé par Alphonse XIII, qui laissait tomber son royaume en déliquescence. La question de José Antonio est la suivante. Quand c'est le permanent lui-même qui est en péril, quand est en danger la permanence même de la patrie, l'armée n'a pas d'autre solution que de choisir. Si elle s'abstient par une interprétation purement externe de son devoir, elle s'expose à se trouver sans plus rien avoir à servir. Devant les effondrements décisifs, l'armée ne peut servir le permanent que d'une manière, en le recouvrant de ses propres armes.
Alors, pardon, je trouve ce texte tout à fait extraordinaire parce que il montre bien à quel point les deux questions, sont, la question de la nation et la question de l'armée, sont des questions totalement correct. Imbriquées.
Tout à fait.
Mais on voit bien, on comprend bien que José Antonio Primo de Rivera dit ça à l'époque où il parle. Et dans le pays où il parle. Il faut savoir qu'il parle en Espagne à la fin des années 30, donc dans un pays qui est, je vais employer un mot horrible, mais interdit, mais tant pis, je l'emploie quand même, dans un pays qui est racialement homogène.
Tout à fait. Encore.
Religieusement homogène. L'Espagne, c'est un pays qui présente une homogénéité à peu près totale, bon, compte tenu, bien sûr, des différentes provinces, etc. Mais ce propos qui est tenu en 1935-36, il n'a plus aucun sens en France aujourd'hui parce que, d'abord, parler de la nation comme d'une entité homogène, ben, c'est plus valable en France, puisqu'il se trouve que la nation a été en quelque sorte noyée dans un. Métissée, noyée dans un système. Qui n'est plus national. Bon. Et deuxièmement, parler de l'armée comme une entité qui pourrait prendre des décisions. Alors ça, je me retourne vers le colonel Mollet, parce que l'idée d'une armée qui serait une espèce de corps, d'entité vivante, avec une pensée, avec une attitude, hein, l'armée doit choisir, nous dit Primo de Rivera. Mais aujourd'hui, vous faisiez allusion tout à l'heure à Joseph de Maistre en parlant de son engagement, enfin de cette tentation maçonnique. Mais aujourd'hui, l'armée française, elle comprend des jeunes gens de famille de la tradition catholique, des jeunes gens de la bonne société, pour simplifier, sans blesser personne, l'aristocratie versaillaise. Et puis des jeunes gens qui viennent du peuple, qui sont plus ou moins religieux, qui peuvent être des catholiques conciliaires, des protestants, des juifs, voire des musulmans. Et puis... je ne crois pas dire une bêtise, mon colonel, si vraiment ce que je dis vous irrite, vous êtes parfaitement fondé à me peser un démenti formel. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour devenir officier supérieur, c'est quand même plus rapide si on appartient à la loge des bras cassés et des ceinturons de velours. Hein. Il vaut mieux avoir une petite appartenance maçonnique parce que ça accélère bien la progression dans la carrière.
C'est pas nouveau.
Voilà, c'est pas nouveau. Disons que c'est de plus en plus vrai.
Oui. Hein.
Ça a toujours été vrai, mais c'est de plus en plus vrai. Donc, on est donc dans une armée qu'on peut pas considérer comme une entité. Puisqu'en réalité, c'est encore une fois une armée mosaïque, une armée communautaire. Alors, c'est vrai que Chevalier chantait ça, d'ailleurs, tout ça, ça fait d'excellents français. J'y pense à l'instant où je vous parle, parce que hein, le colonel était d'action française, etc., etc. Mais, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus réellement de sens national dans l'armée et qu'il n'y a plus de sens de l'armée dans la nation. Je sais pas, qu'est-ce que...
Ce sens de l'armée dans la nation, oui. Blanquer d'Assac a eu raison d'insister sur ce caractère primordial. Ben, mais nous arrivons maintenant à une situation gravissime. et je tiens à le dire en toute honnêteté, c'est que actuellement nous assistons non plus à un déshabillage, mais
un dépeçage,
un assassinat de l'armée. Il faut le dire.
Une neutralisation.
Ah, d'abord, oui, mais d'abord une décomposition totale. C'est-à-dire que...
Oui, enfin, neutraliser l'armée, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire la décomposer et l'assassiner, puisque l'armée, par définition, elle ne peut pas être neutre.
Enfin, absolument. C'est... Si on fait la somme, alors je ne veux pas être trop long.
C'est nier son essence même.
Si on fait la somme, n'est-ce pas, des actions menées depuis quelque temps, nous démarrons, si vous le voulez, en 45, où, je tiens aussi à le dire, 43 000 officiers ont été mis à la porte en 45. Vous vous rendez compte, la masse que ça représente. Bon, alors il a fallu repartir de zéro dans tout ça. Et grâce à des hommes comme Delattre, on en est sorti.
Je vais être obligé de vous couper, pardon, je vous redonne la parole tout de suite après, parce qu'on a une obligation technique, oui, morale même, qui est de passer ce qu'on appelle un bobino. Et je, quitte à vous décevoir, ça n'a rien à voir avec le sens qu'on donnait à ce mot dans l'armée.
Dimanche 14 mai, 12e fête de la courtoisie. À la maison de la mutualité, grande salle du théâtre, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres, dimanche 14 mai de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est toujours que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants accompagnant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet d'entrée, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 14 mai, 12e fête de la courtoisie, maison de la mutualité, entrée 150 francs, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Voilà, je vous donne la parole, mon colonel, non sans préciser que les auditeurs qui voudraient vous rencontrer, ben vous auront l'occasion de vous rencontrer à la mutualité dimanche, puisque vous serez parmi nous, comme d'ailleurs le docteur Plancard-Assac, qui est monté, est-ce que je peux me flatter de dire que vous êtes monté spécialement pour la journée du livre de Radio Courtoisie, de votre...
Je suis monté pour les deux choses, et la séance de ce soir, et pour la mutualité.
Ben écoutez, je suis très très flatté de pouvoir...
Quand on se bat pour des idées, il faut tout de même payer sa personne aussi.
Voilà, donc vous savez, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de visiteurs, mais il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs aussi. C'est vraiment un moment important dans
le
combat de la civilisation que mène cette radio, c'est clair.
Je crois que c'est très important.
Alors, je vous rends la parole.
Bon, donc, très vite, mais si l'on fait la somme, le sigma, si vous voulez, de cette sorte de destruction de la famille militaire, car en fait, c'est ça. On détruit, mais bribe par bribe, j'allais dire pétale par pétale, la famille militaire. On assistait à la suppression, vous savez bien, de 100 régiments, vous rendez compte de ce que ça représente, parmi lesquels beaucoup de régiments d'élite, auxquels j'ai appartenu, aux 15-1, aux 3e chasseurs, à des régiments très brillants, tout ça a été lessivé. Bien. Ensuite, on vend, bien sûr, les bâtiments. On vend les cantonnements, on vend les casernes, on vend les messes. On supprime les messes en même temps, parallèlement, on coupe tout ce qui vient d'en bas, tout ce qui est prometteur, et on supprime toutes les corniches, classes préparatoires de France. Il n'y en a plus. Il y en avait une dans chaque grande ville.
Bien sûr.
On garde deux corniches militaires, bien, je tiens à vous le dire, bien surveillé par la sécurité militaire, c'est-à-dire par la police interne, la Flèche et Saint-Cyr l'école. C'était encore trop. Le ministre a déshabillé les Prussiens, les gars de la Flèche, ils n'ont plus le droit de porter l'uniforme qu'ils portaient depuis 150 ans.
Oui, mais là, j'ai encore envie de vous dire, écoutez, c'est... extraordinaire dans notre pays.
Oui.
Vous dites aux employés de la SNCF, on va vous changer la couleur de vos cravates. Ils descendent dans la rue en disant, on ne veut pas porter de cravates bariolées, ou on ne veut pas être obligé de porter du tout des cravates. Foutez-nous la paix avec les cravates. Bon. Et l'État se met à plat ventre en disant, bon, alors on supprime les cravates pour les cheminots. Et on dit aux Prussiens, interdiction de porter l'uniforme, vous en avez entendu un protester? Ils ont fermé leur gueule, non. Et ils se sont mis en civil, comme non. Tout le monde. Eh ben, on ne les a pas entendus beaucoup.
Ah ben oui, parce que vous pouvez pas les entendre. Là, il n'y a pas la télé, vous comprenez? Et puis, il n'y a pas la presse non plus, il n'y a personne.
Alors, ça ne sert à rien de crier si personne n'entend.
Il faut quand même redéfinir l'environnement, c'est-à-dire une dictature intégrale sur le plan psychologique et mental. Nous sommes dans un pays dictatorial, de la pire dictature qui soit, c'est-à-dire celle de l'esprit.
Alors, pardon, je voudrais me tourner vers M. Plancard-Assac pour lui poser une question, parce que qui est relative à son sujet. Est-ce que vous avez l'impression que cette décadence de l'armée s'explique par la décadence de la nation, ou est-ce qu'elle explique la décadence de la nation? Est-ce qu'on n'a plus d'armée parce qu'on n'a plus de nation, ou on n'a plus de nation parce qu'on n'a plus d'armée?
Non, l'armée est détruite par le pouvoir politique sciemment. Parce que c'est un facteur d'ordre, et il faut noter que les révolutionnaires depuis la Révolution française ont toujours favorisé la crapule face aux honnêtes gens, face à l'ordre. Donc il faut détruire la nation, c'est leur but, c'est pour ça que, comme l'a expliqué Bernard Moinet, progressivement, tranche par tranche, on élimine le prestige de l'uniforme, la notion de sacrifice uniquement pour la nation. Maintenant, on les fait battre pour tout et n'importe quoi. Il faut dire aussi que quand ils acceptent de déblayer les ordures ménagères, ils sont prêts à tout.
Mais quand vous dites...
Je juge en politique, hein, et je suis, comme vous d'ailleurs, sévère sur les militaires, les officiers qui acceptent des choses comme ça sans réagir. Parce qu'après tout, ils ne sont pas obligés.
Non, il y a toujours la possibilité que je revienne démissionner.
Et nous avons besoin d'un bras armé. C'était déjà ce que constatait d'ailleurs Barrès, après les palinodies du général Boulanger.
Mais est-ce que, alors justement, puisque vous parlez de, j'allais vous poser la question à propos du général Boulanger, et ça, c'est très bien que vous citiez ce nom, parce que il y a en fait j'ai l'impression qu'il y a une coïncidence entre le zénith de l'armée française, à la fois esthétique, dans son importance nationale, qui est à peu près la fin du 19e siècle, curieusement d'ailleurs, parce que c'était une armée défaite, la défaite de 70, la défaite de 70 a poussé, on a l'impression que la France a aimé encore plus son armée parce qu'elle a été vaincue. Et c'est à ce moment-là que, en quelque sorte, le nationalisme, les doctrines du nationalisme commencent à émerger, vraiment, enfin à devenir, à être en quelque sorte formulées par des écrivains comme
C'est une excellente question, une excellente remarque.
Est-ce qu'il y a un lien direct entre la force d'une armée et la force du sentiment nationaliste dans un pays?
Bon, je crois qu'il faut tout de même dissocier un petit peu les deux choses. Je vais essayer de répondre aux deux aspects tels que je les vois. En fait, l'émergence du nationalisme se fait en réaction avec le début des idées révolutionnaires. Et j'ai tenu dans mon livre, justement, à bien situer l'origine parce qu'elle explique ce que c'est réellement que le nationalisme. Parce que nous, on est dans une confusion invraisemblable quant au terme qui recouvre actuellement deux choses totalement différentes.
Ça, le mérite de votre livre, c'est de le rendre lumineuse.
Hein. Merci. L'origine, donc, c'est une réaction face aux idées révolutionnaires qui, dès le début, sont internationalistes. Et comme exemple, entre autres, sinon le livre aurait été beaucoup plus épais, je ne le voulais pas, deux hommes,
Klotz,
deux étrangers, il faut le souligner, Anacharsis Klotz, qui est tout un programme déjà dans prénom
inventé, c'est trop beau,
juif prussien, et le chevalier, entre guillemets, qui n'était pas plus noble que moi, je suis pape, ce qui serait préférable d'ailleurs, écossais, invoque et prône la République universelle. Et qu'on ne dise pas que ce sont des histoires anciennes, Jean Le Ray, ancien grand maître de la Grande Loge de France, du Grand Orient, dans la revue Humanisme dans les années 60, se référait à Ramsay,
pour appeler la République universelle qui, disait-il, depuis les origines de la maçonnerie, était le but constant de tous les membres de la maçonnerie. Bon, donc, ça c'est une chose. Ça c'est l'origine. Le nationalisme français émerge comme une réaction aux idées internationalistes sous-jacentes et masquées de la Révolution française. Parce qu'évidemment, il y a des oseaux, je dis clairement à l'antenne, des oseaux qui croient que la Révolution française a été nationaliste parce qu'elle appelait à la défense de la nation face à l'étranger. La patrie en péril. C'est une vaste rigolade parce que, en fait, l'étranger ne s'est pas dérangé, que l'étranger qui est venu nous rendre un petit peu visite, c'était un certain Brunswick.
Oui.
Qui était de connivence,
bien sûr.
D'où la mascarade de Valmy, alors qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires avec la Révolution.
Valmy, c'était une tenue blanche fermée.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, donc voilà, premier aspect du problème. Ce qu'est réellement le nationalisme, c'est une réaction face à des idées internationalistes que les gens de l'époque pressentent de voir, à terme, détruire l'idée de nation. Et puis, la Restauration, on arrive tout doucement au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, et puis la progression du mal, c'est-à-dire progression des idées de la Révolution qui s'installe, malgré la Restauration qui n'a pas restauré les idées, qui a restauré les hommes, mais pas les idées, avec les rois.
Au contraire, même.
Au contraire, même. Ils ont eu peur de leur ombre et de leur mission. Et le mal progressant, le capitalisme cosmopolite s'implantant de plus en plus, entraînant de plus en plus de malheurs, et là je dois rappeler encore une chose, c'est que c'est bien la Révolution française qui a supprimé les corporations, en interdisant tout droit d'association du monde du travail pour les livrer au capitalisme naissant, et donc du fait de toutes ces souffrances, on va avoir toute une école de pensée un petit peu disparaître avec des gens de gauche, genre Proudhon, Blanc, etc., etc., des gens comme Drummond qui commencent à faire la critique des conséquences des idées de la Révolution et de ce qui se cache derrière, c'est-à-dire les intérêts économiques cosmopolites qui vont évidemment fatalement entrer en opposition avec les intérêts des nations. Et donc, il y a une période entre l'émergence du nationalisme à la fin du XVIIIe siècle et sa réapparition en tant toujours que défense de la nation à la fin du XIXe. Mais entre-temps, il se passe un phénomène qui va brouiller les esprits, parce qu'on va utiliser le terme nationaliste pour désigner le principe des nationalités. Oui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Il y a une espèce de perversion du mot, là.
Ce n'est pas du tout la même chose. Le nationalisme vient après la constitution de la nation pour défendre l'héritage. Le principe des nationalités ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou nationalitarisme, qui est le terme qui a été créé par René Joannet pour essayer de donner un autre terme à deux entités totalement opposées, ce principe des nationalités va provoquer la chute des grands empires chrétiens d'Europe, reconstituer ou constituer de nouvelles entités, et ce grand nigaud de Napoléon III, Carbonaro, qui aura été à l'origine de ce mouvement justement d'éclatement des empires chrétiens d'Europe, en sera lui-même la première victime à Sedan. Bon. Donc, il faut bien qu'on se mette d'accord sur le sens de nationalisme. Le nationalisme, c'est la défense de la nation, non pas de la terre des pères, ça c'est le patriotisme, mais de l'héritage spirituel, moral et intellectuel qui fait que la nation, comme un individu, a une personnalité propre. Alors que le principe des nationalités, ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est destructeur de ces entités déjà constituées par l'histoire, et apparaît en fait, maintenant, surtout que l'on a le recul, comme une arme du mondialisme, déjà depuis les origines de la Révolution, pour détruire les nations, puisque, comme le disait le baron de Rothschild, le verrou qu'il faut faire sauter, c'est la nation.
Alors, je voudrais, il nous reste 10 minutes, je voudrais vous demander de... Je ne savais pas de faire preuve d'optimisme, parce que l'optimisme, c'est une sottise, comme le pessimisme d'ailleurs, mais c'est de nous donner des raisons d'espérer. Alors, colonel Moinet, j'étais un petit peu désagréable, mais volontairement, parce que je savais que ça allait faire jaillir en vous l'étincelle de passion que j'attendais.
Ah, non, c'est pas du tout désagréable.
Non, pas avec vous, bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Saint-Cyr, par exemple, puisqu'il faut parler de Saint-Cyr, c'est le sujet de votre livre. C'est à la fois le départ de votre existence, l'âme qui a sous-tendu votre combat pendant 50 ans.
Oui.
Est-ce que vous croyez que Saint-Cyr, aujourd'hui en France, a encore un sens? Et est-ce que vous croyez que Saint-Cyr est encore une institution dans laquelle on peut espérer? Et puis, troisième question qui rentre dans l'ensemble, est-ce que vous croyez que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui vont tolérer encore longtemps la pérennité d'une institution qui est tellement, au fond, radicalement contraire à tout ce qu'ils attendent, à tout ce qu'ils espèrent, à tout ce qu'ils veulent faire de notre pauvre pays?
Voilà trois bonnes questions. Bon, alors la première question, est-ce que Saint-Cyr, si j'ai bien compris, vous me dites, est-ce que Saint-Cyr est encore pensable aujourd'hui? Non seulement Saint-Cyr est pensable.
Vous savez, j'aurais pu vous poser la question en la signant François-Marie Algou, parce qu'il envoie un message passionnant émission. Mille merci au colonel Moinet et à Philippe Plancard-Lassac de nous permettre de rester fiers d'être français et de ne jamais désespérer, jamais. Voilà.
Alors, wow. Saint-Cyr aujourd'hui est au contraire absolument indispensable, non seulement, je dois dire, à l'armée en soi, en elle-même, si vous voulez, mais à la France tout entière. C'est à la fois un symbole et un grand espoir. Un symbole parce qu'il y a là 200 ans d'histoire, l'école va avoir 200 ans. Et une transmission des traditions incontournable, quelles que soient les générations. C'est ainsi que ce livre, celui qui vient de ressortir, À genoux les hommes, est préfacé par un colonel de nos très grands anciens de la promotion Gallieni, c'est-à-dire un homme qui a aujourd'hui près de 90 ans, et par le père Système, par le président de la dernière promotion de Saint-Cyr, qui a 24 ans.
Donc la chaîne est solide.
Elle est démontrée. Quand on lit ces deux préfaces, côte à côte, c'est extraordinaire.
Est-ce que c'est obscène ce que je vous ai demandé tout à l'heure, à savoir si le pouvoir risque de...
Ah, j'y viens.
Les pouvoirs.
Non, j'y viens. J'y viens, il est certain que les élèves ont parfaitement conscience des menaces, non plus à l'échelon national et international, mais à l'échelon de leur école, qui se trouve maintenant devant eux. Ils les connaissent. Je ne serai pas, pour des raisons que vous comprendrez très bien, je ne m'étendrai pas sur les personnalités actuellement en cause à l'échelon gouvernemental.
Enfin, c'est probablement pas Madame Aubry ou Madame Moinet, donc c'est assez facile de deviner de qui vous ne parlez pas.
Voilà. Et de qui je ne veux pas parler. Pour justement protéger les choses. Mais, il y a des plans prévus. Et il y a des plans prévus pour faire sauter quoi? Eh bien, essentiellement, faire sauter cette chaîne de tradition. C'est aux traditions que l'on va s'en prendre. Et ces traditions qui sont au cœur des élèves actuellement de façon incroyable.
Donc en même temps, vous nous dites il y a un danger, mais il y a espérance parce que...
Mais alors, il y a une espérance formidable. Je peux vous dire qu'elle est formidable.
Merci.
Et je dois vous dire qu'il y a deux jours, j'étais à Dinan. Il y avait d'ailleurs là des Sirards et des élèves invités à cette cérémonie. Il s'agissait d'une cérémonie d'anciens, pourtant, et d'anciens d'Indochine, avec des Vietnamiens, avec 80 drapeaux, et dans une ambiance extraordinaire d'une ville comme Dinan qui participait totalement à la cérémonie. Ça, c'est nouveau.
Merci, mon
collègue. Et ça, c'est la renaissance pour demain.
Merci. Alors, on peut vous voir donc dimanche Et on pourra acheter votre livre À genoux les hommes, qui est un livre magnifique, un roman magnifique. Hein, je le dis, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
C'est un roman vrai.
Un roman vrai, bien sûr. Philippe Plancard-Assac, la même question. Vous avez vu ce qui s'est passé, et bien sûr, vous avez suivi tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois dans les milieux nationalistes. Est-ce que malgré tout, le regard du spécialisme... du spécialiste du nationalisme français, que vous êtes de l'expert en plus qui a vécu la chose, mais qui l'a étudié. Est-ce que votre regard est pessimiste ou optimiste? Est-ce que vous croyez encore qu'on peut espérer dans un sursaut nationaliste?
Tout dépend si l'on acceptera finalement de commencer par le début, c'est-à-dire de poser les fondations telles qu'elles doivent être. Cela commence par une critique des idées.
Et c'est ce que vous faites avec,
c'est ce que j'ai fait avec mon livre. J'ai voulu tout de même clarifier un certain confusionnisme qui a cours à l'heure actuelle, malheureusement, dans les milieux dits nationaux, où on fait surtout de l'activisme électoraliste. Il faut que ça cesse. Alors, où ceux qui incarnent certains partis le comprennent gentiment, ou bien il faudra qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils seront dépassés. Parce que les exigences de la survie du pays pousseront d'autres générations, d'autres hommes à leur place. Ça, je le dis très clairement. Je ne suis pas pessimiste, d'ailleurs je crois que mon livre le démontre amplement. D'ailleurs je fais tout à fait mienne la fameuse déclaration de Maurras. Tout défaitisme en politique est une sottise absolue. Mais il est évident qu'encore faut-il qu'on veuille se battre. On ne se couche pas. Et il n'y a rien de pire, rien de plus démobilisateur que de croire que l'on est tout seul. Et ça, c'est la grande force de nos adversaires, c'est de nous désolidariser et de faire croire que finalement, nous représentons peu de choses. Ce n'est pas vrai. Je suis surpris, de par les contacts que je peux avoir à travers la France, du nombre de gens... au départ, on ne sait pas qui on est. En discutant avec l'un, avec l'autre, on se rend compte, tiens, petite phrase, ça situe un petit peu la personne. On va plus loin, l'autre va plus loin, et on finit par se rendre compte. Et ainsi de suite. Il faut savoir que, sans être majoritaire, nous représentons une entité tout de même bien définie. Mais malheureusement, qui a été un petit peu détourné du véritable combat, qui est le combat des idées, pour faire, comme je disais tout à l'heure, de l'activisme électoraliste. Et la réaction des uns et des autres me fait penser à certains supporters de l'OM et d'autres clubs, quand ils ont perdu, ils cassent la gueule des autres supporters. Il faut que ça s'arrête et que l'on parle des choses sérieuses au lieu de s'amuser.
Merci,
parce qu'ils nous amusent pas.
Merci, monsieur Plancard-Assac. Mon colonel, un mot, mais une seconde, parce qu'on est déjà en dehors du temps.
Mais ça n'est pas du tout dans le cadre de notre émission exactement, mais il nous faut, je crois, annoncer que le samedi 13 mai aura lieu la réunion de Veritas. C'était l'Assemblée Générale de Veritas, qui est un mouvement voulant rétablir la vérité historique
sur l'Algérie,
et faire condamner les responsables. Le rassemblement se fera à l'hôtel Campanile, Paris, porte de Bagnolet.
À quelle heure?
À 14h, entre 14h et 15h,
14h, voilà.
Pour toute l'après-midi, disons 14h, 28 avenue Charles de Gaulle, à Bagnolet.
Merci, mon colonel. Merci à vous deux. Rendez-vous dimanche 14 à partir de 10h du matin à la Mutualité pour la journée du livre de Radio Courtoisie. Merci aux auditeurs. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 mai 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 11 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtois